Émission en jazz de ce mardi 9 juin. On est très content d'être avec vous. Il est midi 1 minute. Très belle journée sur Québec aujourd'hui. Parce qu'à la météo, présentement, c'est 25 degrés. Mais ça va monter jusqu'à 27 cet après-midi, ensoleillé. 14 ce soir, partiellement nuageux. 28 pour demain, généralement nuageux. Et 28 pour jeudi, ensoleillé. Donc, on va être dans 4 belles journées consécutives, si on compte lundi. Profitez-en, même si on est mardi, vous avez le goût d'une petite terrasse, quelque chose. Allez-y. Payez-vous à traite, parce qu'à long terme, en fin de semaine, ça va être encore pluvieux. Donc, profitez de ces belles journées-là. Je salue Alex qui nous dit « Salut les boys, bon show. » Je suis en compagnie de Nathan Meilleur. Nathan, ça va bien?
Très, très bien. Et toi? Oui,
ça va super bien. 418-971-1021, évidemment, pour nous rejoindre en studio. BLVD.fm pour nous écouter via notre web radio. Allez réécouter nos meilleurs moments. L'application BLVD102.1 est disponible sur App Store et Google Play Store. C'est gratuit, téléchargez-les. Et si vous êtes à la maison, avec votre haut-parleur intelligent, vous êtes écouté BLVD102.1. Et c'est fait, on apparaît dans vos oreilles. Aujourd'hui, caucus avec Emmanuel Latraverse. Ben oui, je m'en souvenais plus hier. Anto est absente aujourd'hui.
Ben oui.
Donc Emmanuel va être avec nous cette semaine, mardi et vendredi. Antonine sera là mercredi et jeudi. Donc, on va entre autres parler de ce revirement de situation inattendu. PQ qui sort un matin, qui dit « On n'en veut plus de TGV ».
Ça, c'est... Ouais. C'était-tu d'un carton, tu penses? Puis on a attendu avant de sortir la nouvelle. C'est-tu quelqu'un qui s'est réveillé hier en revenant du week-end? Pareil, on a repensé à ça. Puis,
c'est ça.
T'es-tu d'accord avec moi que ça sort un peu de nulle part un matin, on dirait?
Ça sort vraiment de nulle part ce matin. On va entendre Emmanuel à cet effet-là. Évidemment, on sait, c'est les fameuses consultations spéciales sur les boissons énergisantes aujourd'hui. On va parler de ça avec Emmanuel dans quelques instants. On va avoir une entrevue également aux alentours de 12h30, très émotive. Luc Berthold, ouais, qui est le député de Mégantic, l'érable, Lobinière, au niveau du Parti conservateur du Canada, qui a déposé un projet de loi pour qu'on offre davantage de services aux jeunes qui sont pris avec des dépendances et des problèmes de santé mentale. M. Berthold a perdu son fils qui s'est suicidé à l'âge de 28 ans après un dur combat contre ces démons de la toxicomanie, de la consommation.
Est-ce que tu as, dans l'article, ce qui m'a bouleversé ce matin, puis tu sais, qu'on soit parent ou pas, là, c'est sûr que tu sais, je pense que quand on est parent, évidemment, on se projette un peu là-dedans, mais... Quand M. Berthold explique qu'à un moment donné, son fils lui a dit « Je me vois pas sobre. Hein? Je me vois pas à jeun. »
Ça m'a tellement frappé dans la face.
Cette phrase-là, moi, parce que tu sais, c'est ça. Ouais. Son fils, en plus, s'était remis sur pied, a fondé une famille.
Ben, oui.
Puis je pense que l'exercice d'y aller avec ce projet de loi-là, plus de solutions, plus de soutien, de créer un filet davantage que de punir.
Vraiment.
Et d'interdire, donc... pourrait peut-être effectivement aider par rapport à ça, mais c'est bouleversant comme ça. C'est le premier article que j'ai lu ce matin.
Moi aussi.
En me réveillant, puis je t'avouerais que la première gorgée de café a passé de travers. Hey,
quand j'ai lu ce bout-là, moi aussi, j'ai fait « Oh my God, imagine si mon enfant me disait ça. Hey, je me vois pas sans consommer. » Ouf, quand tu sais que là, c'est jusqu'au crack.
Oui, puis c'est pas... dans ce cas-ci, je pense pas que c'est une question de milieu, c'est pas une question de valeur, c'est pas une question d'éducation, c'est une question de une première fois d'avoir essayé quelque chose dans une soirée, dans un party. Ben, c'est un peu ce qui explique aussi d'ailleurs.
Ben oui.
C'était à 13 ou 14 ans, je pense, après une soirée arrosée, première brosse, il est rentré puis il y avait de la difficulté à marcher.
Ben oui, puis là après ça, ben oups.
L'escalade, la fameuse escalade.
Exactement. Mais, donc, on va parler avec M. Berthold, ça va être aux alentours de 12h30. Avant de rejoindre Emmanuel, Nate, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Le gouvernement fédéral de Mark Carney qui s'apprête à déposer un projet de loi qui interdirait l'accès aux réseaux sociaux aux jeunes de moins de 16 ans. C'est sorti il y a quelques minutes. Là, le texte porté par Mark Miller qui obligerait les plateformes numériques à mieux protéger les enfants et à leur bloquer certains contenus. Ottawa qui a toutefois choisi de ne pas imposer de limite d'âge pour l'utilisation des outils d'intelligence artificielle. Donc, on a vraiment séparé là, les deux dossiers. L'IA, c'est correct encore pour tout le monde. C'est vraiment les réseaux sociaux qui sont visés dans ce cas-ci. Le gouvernement qui estime plutôt que l'apprentissage et l'adoption de l'intelligence artificielle doivent être encouragés, y compris chez les jeunes, dans le cadre de sa stratégie nationale sur l'intelligence artificielle. Je ne suis pas contre ça. Je pense, au lieu de voir la bête comme étant méchante, pourquoi ne pas, au contraire, essayer de la comprendre et de l'apprivoiser pour être sûr, justement, de l'utiliser à bon escient. Donc ça retient l'attention. Sinon, ben, on va en parler avec Emmanuel aussi, mais évidemment, le chef du Parti québécois, Paul-Saint-Pierre Plamondon, qui affirme qu'un gouvernement péquiste retirerait le Québec du projet de train à grande vitesse Alto entre Québec et Toronto s'il est élu cet automne. Un projet qui coûterait beaucoup trop cher et les sommes prévues seraient mieux investies dans les rénovations des infrastructures existantes dans le transport collectif local. J'y vais vraiment avec un survol là, de cette nouvelle-là, étant donné qu'on va le traiter dans quelques minutes. Vraiment. Et parlant justement d'infrastructure, ben, c'est beaucoup de sujets sur l'infrastructure dans les nouvelles aujourd'hui. Je vous parlerai peut-être un petit peu plus tard d'un viaduc, mais on parle aussi d'un manque d'espace, entre autres, dans les écoles de la grande région de Québec qui atteint un niveau critique. Les 4 centres de services scolaires de la région qui réclament la construction de 20 nouvelles écoles.
Puis agrandissement de 21.
Écoute, je l'ai vécu 2 fois, moi, à côté de chez nous, OK? Une école qui a été complètement démolie parce qu'elle était désuète. On reconstruit une école flambant neuve. Pendant ce temps-là, il y a les fameuses roulottes de chantier qui sont installées dans la cour d'école et on a dû garder les roulottes de chantier après la construction parce que le temps de construire...
On avait mal évalué.
On manquait déjà de place.
Ouais.
Je l'ai vécu à nouveau avec une autre école où est-ce qu'il y a eu une rallonge qui a été installée pendant un certain temps pour les travaux et finalement, whoop, on a la nouvelle que la rallonge va peut-être rester là finalement parce que, encore là, finalement, on a besoin davantage d'espace. La seule école qui a eu des transformations majeures dans le secteur où j'habite, c'est Stade Aconé, qui a un projet Lab École, qui finalement n'a pas de roulotte de chantier, n'a pas de... Tu sais, ça se voulait être ça aussi, projet-là des Lab École. C'était d'inspirer finalement le gouvernement et les différentes instances à développer l'école de demain. Mais c'est la seule dans le secteur où je suis. Puis c'est fou parce que moi, j'étais allé à une école primaire, Jeff, qu'on a fermée. Parce qu'il y avait un manque d'élèves quand j'étais jeune, puis on avait des classes doubles. T'sais, moi, j'ai fait première, deuxième année, deuxième, troisième année. J'allais à l'école Saint-Maurice, qui est aujourd'hui le centre Mère et Monde. C'est à 8e avenue à Limoilou. On a fermé cette école-là, qui était une école de 4-5 étages, puis aujourd'hui, on en manque. T'sais.
On manque d'école, exactement, au niveau de la planification. Et pour ce qui est des infrastructures, Marc-André Martin, président de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec, sera avec nous aux alentours de 13h pour nous parler de ces viaducs qui sont dans un état lamentable. On passe au caucus.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Caucus avec Emmanuel Latraverse aujourd'hui. Emmanuel, comment vas-tu?
Ça va bien, merci.
Good. Emmanuel, on écoute Joël Arsenault qui, avec le PQ, nous a sorti un lapin de son chapeau ce matin.
On vous annonce que le Parti québécois veut se retirer de ce projet de TGV-là pour que l'argent du Québec soit investi dans le déficit du maintien des actifs, dans les projets de transport collectif pour la réparation de nos routes, de nos hôpitaux et de nos écoles.
Emmanuel, ma première question, t'attendais-tu à ça? Moi, pas du tout.
Non, pas du tout. Puis l'argumentaire est assez périlleux, hein, on s'entend, là. Le Québec ne peut pas se retirer du projet. Okay? S'il n'y a pas de Québec, il n'y a pas de projet. C'est un projet, il faut le dire, qui est financé à 100% par le gouvernement fédéral et par des intérêts privés. C'est un PPP, là, dont un des principaux acteurs du consortium est la Caisse de dépôt. C'est les PQ Infra. Alors, tu ne peux pas dire on veut se retirer puis on veut le 40 milliards.
Bien, c'est ça, ça ne fonctionne pas. Là. Le calcul ne se fait pas.
C'est comme dire on veut se retirer du pont Champlain puis on veut 1 milliard parce qu'il en a coûté 5 puis on a droit à 20%.
Non,
on va se retirer de la voie maritime, tu sais.
C'est parce que
une infrastructure fédéral.
Ben c'est ça. Je comprends que le PQ rêve de souveraineté et rêve de faire son propre pays.
Tu fais la souveraineté, tu sais, je veux dire.
C'est ça. Puis là, tu décideras rendu là.
Tu peux pas te retirer, là. On s'entend, là. Je veux dire, c'est mathématiquement impossible. Donc, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Ceci étant dit, le calcul est très politique, hein. C'est qu'en ce moment, il y a une immense inquiétude chez un très grand nombre de citoyens qui sont dans le corridor du TGV. Pourquoi? Okay. Parce que à l'heure où on se parle, le corridor à l'étude fait 10 km de large. OK?
Ouais.
Le but de Alto, là, le consortium, c'est d'utiliser dans la mesure du possible des emprises existantes. Donc, route, rail, etc. Là, t'sais. Mais on comprend que c'est compliqué les TGV, ça prend des très grandes courbes, hein, parce que tu ne veux pas qu'ils ralentissent, etc. Donc, le corridor à l'étude fait 10 km de large. Donc, imagine la quantité de personnes que ça touche.
C'est ça, la quantité de maisons, la quantité de terres agricoles là, dans le coin de Mirabel.
Mais dans les faits, à la fin du truc, l'emprise va être de 60 mètres.
OK.
Donc, une fois que le tracé va être défini, OK?
Ouais.
Il va avoir, ça c'est entre Québec et Toronto, là, puis incluant la petite branche vers Ottawa, il va y avoir 1700 particuliers touchés et 500 agriculteurs seulement.
Donc, tu es en train de dire qu'on a peur pour rien?
On a peur pour rien. Si tu es un des agriculteurs dont la ferme va être coupée en deux, tu n'as pas peur pour rien, mais on ne sait pas qui va être touché en ce moment. C'est ça l'enjeu, parce qu'on est en train de faire les évaluations, le tracé, tout le reste. Puis là, au mois d'octobre, à l'automne prochain, on va avoir un tracé déjà plus précis. Puis après ça, on va avoir le tracé final, un an plus tard, en 2027. Donc, tout ce temps-là, il y a une joute politique, tu sais, dans les circonscriptions touchées face à l'inquiétude des gens d'aller dire « Nous, on va vous défendre contre ce projet-là. » Mais dans les faits, on ne sait pas qui va être touché par le projet en ce moment. Et c'est ça qui complique les choses, je pense. Mais c'est de la bonne politique quand tu veux gagner des circonscriptions qui sont le long du trajet où les citoyens sont inquiets.
Donc, on est en train de faire de la politique. Est-ce qu'on a trop peur, pareil, aux grands projets au Québec, Emmanuel? Parce que, tu sais, là, nous, on est dans la région de Québec, crime. On a eu peur pendant 10 ans d'un tramway. On a peur d'un troisième lien. Tu sais, mais à chaque fois qu'on parle de grands projets au Québec, puis ici, dans notre capitale nationale, ça finit toujours par du tiraillement qui finit plus.
Ben oui, mais c'est parce que le Canada est le pays du nonisme, là. Je veux dire, on est quand même le seul pays du G7 où il y a... Même les États-Unis en ont un TGV, tu sais. Bon, un seul, là, il est au Texas, là, mais il existe pareil, tu sais. La réalité, c'est que le corridor Québec-Toronto est le corridor le plus habité du pays. Et il n'y a aucun mode de transport... rapide, écologique.
C'est pas Via Rail qui t'amène à Toronto rapidement, là.
Ben non, mais puis Via Rail, on en repasse, là, tu sais. Je veux dire, t'arrêtes sur les rails, je veux dire, ça prend... Moi je le sais, puis les horaires de train sont infernales. Moi, j'habite à Ottawa, je passerais ma vie à prendre le train entre Ottawa puis Montréal.
Mais tu peux pas. Ben non.
Le dernier train quitte Montréal à 6h50. Je finis mon émission à 8h.
Ben, c'est ça.
Et les horaires de train sont tellement mauvais que ça ne rentre jamais dans mon horaire. Alors, la réalité, c'est que c'est finalement doté le Canada d'une vraie infrastructure. C'est ça, c'est ça les projets nationaux de M. Carney. C'est de dire, on va arrêter de tergiverser et on va les faire, ces projets-là. Donc, je comprends que le Parti québécois soit contre. Le Parti québécois ne veut pas que le Québec mette le doigt dans l'engrenage de grands projets canadiens.
Ouais.
Mais c'est ça la raison. Mais de faire croire aux gens qu'on va aller chercher 40 milliards, il n'y a pas 40 milliards à aller chercher. Puis non seulement ça, mais je ne suis pas une experte en haute finance, mais c'est pas comme s'il y a un chèque de 90 milliards qui va être fait une journée. Là.
Mais non, c'est ça.
C'est financé sur des décennies. Fait que le 40 milliards que le PQ prétend aller chercher, ils n'iront pas le chercher pour aller rénover les hôpitaux en dedans d'un mandat. Là.
Non, c'est ça. Puis nos viaducs, etc.
C'est financé ces trucs-là.
Puis est-ce que je suis le seul, Emmanuel, à pas comprendre ou à trouver qu'il y a un manque de cohérence dans le discours du PQ de dire on veut faire un référendum, on veut éventuellement donc se séparer, devenir un pays, mais on va continuer quand même à aller chercher ces sous-là du côté d'Ottawa. Et nous, quand on sera un pays, on n'aura plus besoin de transiger avec Toronto. On n'aura plus besoin de transiger avec le reste du Canada. Au niveau économique, même si on devenait un pays demain matin, le TGV pourrait quand même être fort utile dans le sens où est-ce qu'on va avoir besoin quand même, on va encore avoir des gens, t'en es le bon exemple, qui va circuler entre Québec, Montréal, Toronto, Ottawa, etc. Je trouve qu'il y a un manque de cohérence dans le discours du PQ par rapport à ça.
Mais le discours du PQ, c'est toujours de dire que la part des impôts québécois qui vont à Ottawa, c'est des impôts qui nous reviennent. Et que donc, cet argent-là ne doit pas être conscrit dans des projets canadiens. Et que c'est pire, parce que si on fait la souveraineté, on va avoir payé pour une infrastructure qui ne nous appartient pas. Ça, je veux dire, c'est un choix idéologique, là.
Ouais, oui.
La réalité, c'est cependant que, tu sais, quand M. Saint-Pierre Plamondon dit qu'on est dans un dédoublement, une dérive idéologique inutile, je veux dire, ça fait 40 ans qu'on en parle d'avoir un TGV au Canada, là. Puis ce qu'il y a d'assez habile dans la façon... Puis on verra, tu sais, peut-être que dans un an et demi, on va regarder le trajet, puis on va avoir une estimée finale des coûts, parce qu'en ce moment, on l'a pas, cette estimée-là. Le consortium dirigé par la Caisse, dans lequel il y a aussi SNCF, les trains français, il y a aussi Atkins Realist, il y a aussi Air Canada, prévoit 60 à 90 milliards. Le bloc dit non, 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 ça coûte toujours plus cher, ça va finir par en coûter 200. On le sait pas. Donc, une fois qu'on aura la version finale du projet, on pourra se prononcer à ce moment-là en disant c'est un bon, c'est un mauvais projet. Les compensations offertes aux agriculteurs qui sont touchés sont adéquates ou non. Mais là, en ce moment, tu ne peux pas avoir un jugement cohérent, informé, rationnel, basé sur les faits parce qu'il y a encore beaucoup trop d'incertitudes. Parce que le projet n'est pas prêt à être finalisé. Ouais,
exactement, c'est trop prémédité. Emmanuel, dossier de la semaine dernière qui continue cette semaine, les boissons énergisantes et cette interdiction pour les moins de 16 ans. Aujourd'hui, il y a des consultations additionnelles qui se font. Mais moi, j'ai trouvé que Moncef Déragé, député pour le Parti libéral du Québec, a sorti un petit lapin de son chapeau concernant le PCQ ce matin.
Nous avons eu un briefing avec l'Institut national de santé publique et ils vont être là aujourd'hui. Donc, j'espère que nos collègues au Parti conservateur vont être convaincus des arguments scientifiques de l'INSPQ parce qu'ils étaient absents lors de la première rencontre et on va aller de l'avant avec ce projet de loi.
Gardons ça, on était absents au PCQ lors de la première rencontre avec l'Institut national de santé publique. Donc, est-ce qu'on est en train de faire des consultations additionnelles parce que tous les élèves dans la classe étaient présents et ont écouté le professeur, mais ceux absents ont dit « Ah, je comprends pas la matière, donc on va faire de la récupération pour tout le monde? »
On s'entend, je pense que le Parti conservateur comprend très bien la matière.
Et ben oui, là.
Il a comprendre depuis le temps que ça dure. Je vais t'avouer, j'hésite beaucoup à lancer des roches au Parti conservateur pour avoir été absent. C'est très difficile de suivre la joute parlementaire quand tu as un seul député. OK? Mm-hmm. Tu peux pas être présent partout en même temps. Et ça, donc, je veux dire, je suis pas prête à les clouer au pilori pour ça.
T'es plus gentil que moi, Emmanuel.
Ben ouais, mais c'est dans ma nature. Je suis un être immensément généreux. Ceci étant dit, tu sais, c'est des fausses consultations. OK? Parce que, tu sais, tu peux pas à moitié étudier un projet de loi. Soit tu l'adoptes à la vitesse grand V puis tu dis advienne que pourra. OK? Ce qui est le parti de la CAQ, du Parti libéral, de QS et du PQ. Ou tu dis ça prend des vraies consultations. Si ça prend des vraies consultations, ça prend plus qu'une journée de monde qui débarque en rafale, mais surtout, ce qui doit venir avec ensuite, c'est une étude ultra détaillée, article par article.
C'est clair.
Alors, soit tu le fais bien ou tu le fais vite, mais le vite et bien dans un contexte comme ça est très difficile. C'est la raison pour laquelle... Il y a une limite à toujours invoquer le consensus pour adopter à la vitesse grand V des projets de loi, tu comprends? Parce que, tu sais, j'avais Stéphane Bédard, qui a longtemps été ministre puis qui est un parlementaire de longue date, là, elle ajoute la semaine dernière, elle dit « Emmanuel, j'ai jamais vu un projet de loi parfait. »
En effet.
C'est en l'étudiant qu'on trouve des failles puis qu'on trouve une meilleure formule, et etc. Donc, là, tout le monde veut l'adopter à la vitesse grand V, très bien. On fait des consultations. Ça sert à une chose dans la vie, ça sert au PCQ de sauver la face pour pouvoir ensuite s'abstenir parce qu'on n'est pas convaincu. Mais on aura gagné la bataille d'avoir des consultations.
Oui, puis là, tantôt, Maïté Blanchette-Vézina et Éric Duhaime ont tenté de nous expliquer à quel point c'était un gain pour le PCQ, mais on s'entend. Font juste se retarder ceux qui sont les plus vite puis les meilleurs de la classe.
Mais c'est parce que c'est ça, tu sais, je comprends, Emmanuel, quand tu nous dis que c'est difficile de suivre la joute politique quand on est peu représenté du côté du Parlement, mais en même temps, ça n'a pas empêché le PCQ de se positionner quand même assez rapidement quand Mme Blanchette-Vézina, pardon, est sortie justement avec sa comparaison un peu douteuse avec les pamplemousses, là. On se fera pas de cachette non plus. Fait que, tu sais, cette partie-là, est-ce qu'on aurait... Est-ce que c'était plus brillant stratégiquement en termes politiques de se positionner quand même, ou on aurait été mieux du côté du PCQ d'attendre avant de se positionner, puis après ça de se défendre en disant que c'est difficile justement d'être partout étant donné qu'on est peu représenté?
Non, mais moi je dis que c'est difficile d'être partout sur le fait qu'il avait manqué la séance de brefage de la santé publique sur la question. T'sais. Le Parti conservateur a fait le calcul que ça valait la peine de mener cette bataille-là pour essayer de démontrer qu'ils sont, tu sais, d'aller en campagne électorale, de dire, regardez, sur les boissons énergisantes, on a forcé une réflexion, ça démontre qu'on est utile à l'Assemblée nationale et qu'on a besoin d'être là. Je suis loin d'être convaincue que c'était le bon enjeu sur lequel mener cette bataille-là.
Ça, okay. Je suis très d'accord avec toi.
Je pense qu'il y a un consensus assez fort, ce qui ne veut pas dire que la façon dont on adopte ce projet de loi-là est idéale non plus, tu sais.
Non, c'est ça. Ça, effectivement. Ouais.
On termine, Emmanuel, avec le projet de loi Q5, qui est l'équivalent du projet de loi C5 au Canada, c'est-à-dire d'accélérer les grands projets au Québec. Est-ce que j'ai bien compris que Québec solidaire pourrait bloquer le tout? Eux, pourtant, qui viennent de se démontrer en faveur du TGV, à quoi Québec solidaire joue là-dedans?
Bien, Québec solidaire joue, fait énormément d'obstructions sur deux projets de loi. Il y a Q5, là, pour expliquer aux gens, le gouvernement Carney a adopté son projet de loi sur les grands projets, là, qui fait que quand certains projets sont identifiés comme des projets d'intérêt nationaux, ils ont comme droit à une voie rapide pour leur approbation. Plusieurs provinces ont donc décidé d'adopter des législations miroirs, tu sais.
Pour suivre la parade du fédéral.
Pour suivre la parade, puis que tant qu'à aller vite d'un bord, on va aller vite de l'autre bord, là, on s'entend. Le problème, c'est que là, le Québec solidaire est vraiment lancé dans une croisade pour déposer des tonnes d'amendements parce qu'on en a contre le fait qu'on va aller trop vite, ça va mettre en péril l'environnement, etc., etc. Puis ils font essentiellement la même chose sur un autre projet de loi, qui est le projet de loi, le PL23, qui touche le fameux P38, là, tu sais, qui est cette capacité d'interner des gens qui ont des problèmes de santé mentale contre leur gré. Parlant d'un projet de loi qui fait énormément consensus, qui est exigé par tous les proches, les familles, les soignants des gens qui ont
les
des
milieux,
très, très,
les
très
organismes. Alors, moi, le P38, c'est dans mes priorités personnelles avec ce qu'on vit dans Saint-Roch, là, de dire, OK, il faut donner un grand coup, là.
Alors là, il y a un test de leadership là-dedans pour Mme Fréchette. Mme Fréchette se présente beaucoup comme une première ministre de consensus, de collaboration, etc. Elle a les moyens d'imposer un baillon sur ces projets de loi-là. Puis de mettre fin à la récré, puis tant pis, on avance. Elle ne l'a pas fait à ce jour. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire parce que sinon, l'alternative, c'est de proposer de siéger une semaine de plus la semaine prochaine. Ce qui, entre toi et moi, il n'y aurait pas mort d'homme, là.
Ben non, les enfants sont à l'école, là, le 15 juin, là, donc on est correct. On peut aller à l'Assemblée.
Les enfants sont à l'école. Je veux dire, on n'est pas dans le milieu de l'été. Ça siège encore à Ottawa.
C'est la vie normale.
La fin du monde, puis ça compenserait pour les 3 semaines de prorogation qu'il y a eu.
Vraiment.
Alors, il y a comme... la CAQ est un peu à la croisée des chemins là-dessus. À un moment donné, là, tu peux plus... Tu ne peux plus jouer l'horloge, dénoncer, espérer, faire tout ça en même temps. Là. Tu sais, je pense que ça prend des signaux clairs de la part du gouvernement.
Emmanuel Latraverse, c'est toujours un bonheur de te parler. Merci d'avoir été là en ce beau mardi.
Très bien, 9 à juin. Vendredi.
On se parle vendredi. Salut!
Bye.
Emmanuel Latraverse, que vous pouvez entendre dans le caucus. Normalement, c'est les vendredis à l'émission d'En Jase, mais là, il était présent mardi en raison de l'absence d'Antonine Iaccarini. Merci, chers auditeurs, auditrices. Vous avez été plusieurs à réagir au 418-971-1021. Je constate une tendance, Nate. C'est pourquoi le PQ accepte l'argent du fédéral pour le tramway, mais ça ne serait pas correct pour le TGV?
C'est ça.
C'est une très bonne question.
Ben oui, tout à fait. C'est un peu, cette question-là est beaucoup plus claire que celle que j'ai tenté de poser à Emmanuel il y a quelques minutes à peine, d'essayer de comprendre justement le lien et la cohérence, disons ça comme ça, entre le fait que là, je comprends qu'on paye des impôts à Ottawa puis du côté du PQ, on ne devrait pas payer ça, donc on veut avoir tout l'argent. Mais tu sais, demain matin, on devient un pays... Va-tu falloir prendre les fortifications du Vieux Québec puis les mettre partout autour de nous autres pour être sûr qu'on n'a plus aucun lien avec l'Ontario puis le reste du Canada?
Devient pays ou non, là, on va continuer à transiger avec Toronto.
Ben, on n'aura pas le choix.
Les métropoles qui sont Montréal et Toronto vont continuer à transiger ensemble. Fait que s'il y a un lien plus rapide, plus efficace, ne serait-ce que pour ceux qui gèrent l'économie, là, on va être gagnant anyway. Là, même si on est rendu un pays.
Tu sais, même le TGV, Jeff, le pense-y, là. Deux secondes, là. Toi qui es un grand fan du Canadien de Montréal, ça veut dire que tu vas pouvoir aller voir des matchs du Canadien, revenir chez vous le soir même, grâce au TGV, puis rentrer travailler quand même pour le show du matin le lendemain matin.
Le TGV, ça changerait tout. Drummondville deviendrait la banlieue de Québec et Montréal.
Ben écoute, ce serait le Madrid aurait 4 étages.
Ouais, tu pourrais habiter à Drummondville et travailler à Québec.
Ben oui.
Ça te prendrait 35-40 minutes en TGV. C'est le temps que ça prend aux gens pognés dans le trafic présentement qui vivent à Québec pour se rendre à leur milieu de travail.
Tout à fait. T'sais, on fait bien des blagues avec ça, là, mais imagine, tu sais, le matin, tu te lèves, tu parles avec ta blonde, puis ta journée, c'est quoi aujourd'hui? Ouais. Hey, moi, j'ai un meeting à Toronto, je vais dîner là-bas. Je reviens un peu plus tard à soir, mais je vais être là pareil pour coucher les enfants.
Ben, c'est ça.
C'est aller-retour. Fou. On est en 2026. Oh, là, oui. C'est normal d'avoir ce genre de moyens de transport-là. Tellement. Mais comme tu disais tantôt, on tergiverse énormément. Ben on prend énormément de temps. Puis après ça, on chiale parce que ça coûte beaucoup plus cher à construire.
Ben oui.
Mais si on est allé de l'avant...
La peur de faire des projets. Hey, non, si on n'avait pas cette peur de faire des projets-là, là, on aurait un tramway puis un troisième lien. Puis on se parlerait à la radio aujourd'hui.
Ah oui.
T'imagines?
Ah oui.
Cette crainte toujours de « Ah, c'est pas le bon projet! »
On serait pas en train de se poser la question. Envoyer. On va faire quoi l'année que le pont de l'île va être fermé en attendant que l'eau trouve aussi?
C'est ça, t'sais, exactement.
Vois, on a plein des exemples de même.
Yes. Courte pause à Boulevard 101 par la suite. Entrevue émotive avec Luc Berthol, député du Parti conservateur du Canada, qui a perdu son fils, qu'il s'est suicidé à 28 ans. Il avait des problèmes de toxicomanie. Et il va déposer un projet de loi pour qu'on aide davantage les jeunes aux prises avec des problèmes d'alcoolisme ou de toxicomanie. Ça nous parle énormément ici à Boulevard et je suis certain que ça vous parle beaucoup, les auditeurs. Puis on va vous parler également du son dans le Vieux Québec. On va mettre des capteurs de son du côté de l'administration Marchand. C'est ce qui suit à On en jase.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase. Marceau, le matin.
On va aller parler avec le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui est au bout du fil. Salut, Éric.
Bonjour.
Parlais avec le docteur Karim et Layoubi qui est dans ton équipe. Et j'avais parlé des boissons énergisantes, puis il me disait qu'il y avait une problématique chez les jeunes. Ils se ramassaient avec des problèmes cardiaques.
L'interdiction, ça ne veut pas dire qu'ils ne consomment pas.
Oui, mais là, tu sais, tant qu'à y être, l'interdiction, ça ne veut pas dire qu'on ne consomme pas. Fait que, tu sais, tant qu'à y être, on va remettre l'alcool disponible pour les jeunes.
Que quand on veut que ça fonctionne, là, ça prend une série de mesures, pas juste une mesure.
Mais on peut-tu commencer avec une bonne mesure, puis on regardera le reste après?
Oui, mais avant de l'adopter, on peut s'asseoir puis discuter, on peut savoir.
Pourquoi toi tu t'opposes? Tu t'opposes parce qu'il dépose un bon projet de loi? Pourquoi tu t'opposes à un bon projet de loi?
Mais comment tu peux savoir s'il est bon si tu l'as pas dit?
Ben non, mais là, tu sais.
C'est ça l'affaire. Moi, là, moi, contrairement à toi, je pense pas qu'il faut adopter un projet de loi avant de l'avoir vu. Moi, je pense qu'il faut s'asseoir, qu'il faut faire un travail rigoureux.
Marceau, le matin, en semaine, 6h.
Aubaine, des produits de qualité à prix de liquidation. Des nouveautés chaque semaine. Québec, Saint-Georges, Lévis et chapeaubaine.com. Chapeaubaine, des marchands de bonheur.
Tu penses qu'acheter une auto pas neuve, c'est pas avantageux? Ben non. Comme une neuve, t'as des garanties et du financement. Pour une voiture, c'est Charlesbourg Toyota. Va voir les avantages au comme-neuve.com.
Alors que vous partiez en vacances en Estrie, vous faites une crevaison.
Oh!
Vos vacances commencent mal.
Oui.
Vous n'êtes pas en Estrie.
Non.
Mais vous êtes en...
Oui, oui, c'est beau, on a compris.
Mais comme vous êtes membre CAA, vous bénéficiez de l'assistance routière même dans la pire situation.
Génial.
Mais maintenant, vous êtes rendu en Estrie.
Oui.
Vous aimeriez vous détendre.
Oh oui.
Mais votre budget, lui, est tendu, tendu.
Ouais, j'avoue.
En tant que membre CAA, vous profitez des meilleurs avantages, comme des rabais pour le spa,
oh, ouais.
L'essence,
eh ben.
Ou l'hôtel.
Ben, parfait, ça.
Pour le meilleur et pour le pire, CAA Québec.
Ce jeudi et vendredi, ne manquez pas la grande vente entrepôt chez Canabec. Découvrez des viandes de canard, cerf, bison et bien plus encore. Payez le prix du gros sur nos viandes de spécialité et profitez de nombreux items offerts en liquidation. Canabec, 115 des Grands Lacs à Saint-Augustin.
Pièce d'auto économique, c'est 5 centres de distribution, 8 magasins, un site transactionnel et plus de 200 employés à votre service. En juin, profitez de nos différentes promos sur les freins, les amortisseurs, les produits d'esthétique. Ouvert le samedi au 1240 Charest-Ouest, pièceéconomique.com.
On coupe l'aspirateur. On coupe les jeux vidéo. La télé. La tondeuse du voisin. On ajoute un ruisseau. Des écureuils qui se courent après. On ajoute des souliers dans la garnotte. Et des enfants heureux. Ah. Bouger en plein air, ça coupe le chaos et ça ajoute du bonheur. Un message du gouvernement.
On jase!
Il est présentement midi 34, émission On en jase de ton mardi 9 juin. Le retour de Gravel avec Denis Véro et Audrey va suivre à 14h et c'est Marceau le soir de 18h à 19h. Sinon, vous le savez, pour notre programmation, Marceau le matin de 6h à 10h avec Max Laroche et moi-même, Jeff Fortin, de 10h à midi. C'est le point de Max avec Max. La première heure est toujours avec l'excellente, l'extraordinaire Catherine Bachand. Je vous le rappelle à la météo, superbe journée de 27 degrés ensoleillés. Demain, c'est 28 degrés généralement nuageux, 28 degrés ensoleillés pour jeudi. Et à plus long terme, c'est de la pluie pour le week-end. En attendant l'appel de Luc Berthold, député du Parti conservateur du Canada. Nate, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Petite nouvelle. Oui, je suis là. Salut! Ah.
Hey, c'est parce que j'ai toujours l'habitude d'ouvrir le micro 2 et t'es pas en même place que d'habitude.
Ah, je me suis mis en face de toi. Ben, hey, écoute.
Tu fais, ben, reste en face de moi. C'est moi qui vais s'habituer, Caroline Debin.
Ben non, mais c'est correct. T'étais dans l'une, puis ça tombe bien parce qu'on a des nouvelles de la NASA. Hein? Justement, ben oui, on a dévoilé l'équipage pour la prochaine mission Artemis 3, dans laquelle il n'y a pas de Canadiens. Un Italien, 3 Américains qui ont été présentés par la NASA. Artemis 3 devait amener des astronautes sur la Lune. Finalement, je te rappelle qu'il y avait une révision du programme spatial. On a décidé finalement de faire d'autres exercices en orbite de la planète Terre, tester entre autres différents appareils, les nouvelles combinaisons, aussi voir la mobilité de tout ça. SpaceX et Blue Origin qui sont du lot, évidemment, là, pour tester différents équipements. On prévoit toujours un alunissage d'ici 2028. Fait que la bonne nouvelle là-dedans, c'est que ce sera Artemis 4. Est-ce que là, on aurait un Canadien ou une Canadienne, peut-être, qui sera nommée dans cette mission-là?
Ça nous prend un drapeau du Canada!
Ça serait...
Sur la Lune!
T'sais, c'est pour ça que moi, je suis pas... On a eu un Canadien quand même lors de la dernière mission. Ça aurait été le fun d'avoir des Canadiens ou des Canadiennes dans chacune des missions aussi. Mais le fait qu'on n'ait pas été nommé dans celle-là me laisse croire qu'on va peut-être avoir une place dans le vaisseau finalement qui va se rendre du côté de la Lune. Je rappelle toujours d'ici 2028, c'est ça la projection qu'on fait du côté
c'est
de la NASA.
C'est la course avec la Chine.
C'est la course avec la Chine
dans
qui...
Dans le temps, c'est avec l'URSS.
Ben, puis la Chine, elle, qui continue à parler de 2030, mais évidemment, il y a des gens qui suivent ça de près qui se posent la question aussi. Est-ce que 2030, c'est une stratégie chinoise pour laisser croire aux États-Unis qu'on est encore en avance et peut-être qu'on se fera faire un pied de nez? Bref, ça va être à suivre, mais reste quand même que je pensais pas vivre ça.
Non, moi non plus.
De revivre cette espèce de conquête de l'espace-là, il y a quelque chose de quand même très excitant.
Et en passant, c'est arrivé, hein, pour ceux qui croient que c'est pas arrivé.
Oui, c'est ça. Idéalement...
Neil Armstrong a déposé le pied sur la Lune.
Oui, revenez avec nous autres, le souper.
C'est ça, exactement.
Un ancien médecin de famille de Québec, Eugène Aubé, fait maintenant face à 3 nouvelles accusations d'agression sexuelle visant 3 anciennes patientes des
gestes allégués qui auraient été commis dans les années 2000 lors d'examens médicaux. L'homme de 77 ans maintenant avait déjà été reconnu coupable en janvier dernier d'avoir agressé sexuellement deux patientes dans le cadre de sa pratique médicale. Le tribunal qui avait alors retenu que certains examens gynécologiques étaient injustifiés et comportaient des gestes et commentaires à caractère sexuel. Selon les informations rapportées, les trois nouveaux dossiers concerneraient des allégations similaires survenues dans le contexte de consultations médicales. Eugène Aubé doit comparaître jeudi pour répondre à ces nouvelles accusations. L'ancien médecin ne pratique plus depuis 2009 et avait déjà été sanctionné par son ordre professionnel. Si vous venez juste de vous joindre à nous, c'est une nouvelle qui est sortie un peu plus tôt aujourd'hui. Le gouvernement de M. Carney qui s'apprête à déposer un projet de loi qui interdirait l'accès aux réseaux sociaux aux jeunes de moins de 16 ans. Un texte qui est porté par Mark Miller qui obligerait les plateformes numériques à mieux protéger les enfants et à leur bloquer certains contenus. On dit du côté d'Ottawa qu'on a choisi de ne pas imposer de limite d'âge pour l'utilisation des outils d'intelligence artificielle. On estime que l'apprentissage et l'adoption de l'IA doit être encouragé, y compris chez les jeunes. Tout ça dans le cadre de la stratégie nationale sur l'intelligence artificielle. Le projet de loi prévoit également la création d'une loi sur la sécurité numérique et d'une commission canadienne de la sécurité numérique chargée de surveiller l'application de ces nouvelles règles. Et un petit peu plus près de chez nous, c'est la nouvelle ici que je voulais te faire. La démolition de la passerelle Adrien Pouliot.
Oui.
Qui fait jaser beaucoup dans les dernières semaines. C'est prévu à compter du 19 juin, dans le cadre du projet Tramcité, qui suscite des inquiétudes chez plusieurs piétons et cyclistes de Saint-Roch, plusieurs citoyens qui craignent que la traversée de l'autoroute Laurentienne devienne moins sécuritaire une fois la structure retirée. Des résidents, dont certains ayant des limitations visuelles, estiment que la passerelle offrait un lieu sécuritaire pour accéder notamment au secteur du stade Canac et aux événements du quartier. On s'inquiète de devoir utiliser un passage à niveau sur la rue, malgré la présence de feux de circulation. La Ville de Québec assure toutefois que le passage piétonnier existant sera amélioré avec un marquage plus visible, une traverse pour les vélos et des aménagements visant à mieux signaler la présence des usagers aux automobilistes. Bref, la Ville dit que l'intersection va demeurer sécuritaire après la démolition. Encore là, pour habiter dans ce secteur-là, moi, je te dirais bien ça, Jeff. Je vais le croire quand je vais le voir.
Ouais, moi aussi. J'ai passé en grime, là. J'ai une crainte. Il y a quoi, 6-7 voies de circulation?
Oui,
là,
c'est ça.
Là, je sais qu'on aurait aménagé un peu où l'ancienne centrale de police, on a mis un passage piéton, on a rajouté un feu de circulation, mais quand même.
Il y a un passage piéton qui est là, mais l'enjeu, en fait, c'est vraiment quand on tourne, parce que c'est ça, tu sais, on n'arrive pas directement. Quand on s'en va gagner l'autoroute Laurentienne,
exactement,
on n'arrive pas en ligne droite. On tourne, donc, si les automobilistes tournent à ce moment-là, habituellement, les feux sont synchronisés pour s'assurer que la première lumière qui permet de tourner vers la gauche, donc, passe au vert, la seconde reste au rouge pour éviter justement que les gens gagnent en vitesse pour aller gagner l'autoroute trop rapidement. Mais ce secteur-là reste quand même que ça reste 6, même 7 voies, un endroit, si je ne me trompe pas, à traverser pour un piéton ou un cycliste qui était 100% sécurité avec la passerelle. Puis évidemment, l'autre intersection, là où on gagne vraiment l'autoroute Laurentienne, c'est bien trop dangereux. Là.
Ça, cette
intersection-là, il y a beaucoup trop de mouvements de tout bord, tout côté. Il y a des véhicules qui peuvent tourner à gauche, à droite, directement en ligne droite. Puis, veux pas, mais quand la lumière est ouverte, il y a des automobilistes qui gagnent déjà en vitesse sans respecter la limite pour aller gagner l'autoroute.
C'est pour ça que c'est problématique comme secteur. Ouais. Là, je suis très d'accord
avec
toi.
Que ça va donner tout ça.
Moi aussi. Au sport, les Spurs de San Antonio ont gagné 115-111 sur les Knicks de New York hier. Ils reviennent dans la série. Ils perdaient 2-0. Mais ce qui a retenu l'attention, mon cher Nate, c'est ceci. Les Américains qui eurent leur propre hymne national. Hey, m'as-tu entendu ces huées-là?
C'est pas petit, hein?
Non, c'est un complètement changement de cap, là. On le voit à l'écran au Madison Square Garden et c'est une foule entière qui hue le président américain Donald Trump. Ça s'était passé également cet automne à Washington lors de la semaine de reconnaissance pour les militaires, alors qu'il avait fait un discours dans le stade des Commanders. Il s'était fait huer énormément. Donc, bref, la grogne est prise aux États-Unis.
Ouais, c'était arrivé un peu, mais il y a comme un crescendo aussi parce que c'était arrivé au Super Bowl, si je ne me trompe pas aussi. Mm-hmm. On avait entendu des huées, mais
c'était
pas généralisé.
Non, mais là, hier, là, c'est sans équivoque. vote. Ouais. Bon, il y en a qui disent, oh, on est à New York, ils ont voté pour le maire Mamdani, c'est un maire à gauche, on sait bien, c'est des gauchistes. Mais sachez que traditionnellement, dans l'État de New York, ceux qui peuvent assister à ce type d'événement-là, la finale de l'NBA, parce que les prix n'ont juste pas de bon sens, là, c'est des gens qui ont les poches profondes, puis sont plus d'allégeance républicaine.
OK.
Alors là, ça veut dire que c'est les propres républicains à majorité dans l'aréna qui eut leur président.
Qui eut le président. Puis tu sais, de le faire aussi, c'est le genre de geste qui... je trouve que c'est là que ton point est bon. Tu sais, pendant l'hymne américain, de outrepasser l'hymne américain, parce que tu sais, on sait que le patriotisme étant très, très fort aux États-Unis, on aurait pu huer Donald Trump, mais à un autre moment où il est filmé pendant la soirée.
Exactement.
Et s'abstenir de le faire pendant l'hymne américain, parce que c'est tellement important. Pour... Mais pendant, je trouve que ça en dit gros. Là.
Imagine,
c'est
les Américains en avaient gros sur le cœur quand au Canada, on huait l'hymne américain dans les matchs sportifs en raison de la guerre tarifaire. Il y a même des joueurs qui sont sortis, des Brady Kachuk de ce monde qui jouent à Ottawa en disant « Hey, j'aime vraiment pas ça quand on eu mon hymne national. » Et là, c'est les propres Américains qui se permettent de le faire.
C'est que c'est ça.
Donald Trump. Ben, tu sais, il a promis pas de guerre. Il est en Iran. Il est en train d'affaiblir Cuba. Il est allé au Venezuela. Il avait promis une diminution de l'inflation. Oublie ça, le pétrole est à son maximum. L'inflation était au-dessus de 4 % aux États-Unis à la fin de l'année 2025. Là, j'ai pas les dernières données du... non, c'était le premier trimestre 2026. Donc là, on est dans le deuxième trimestre. Alors, 4,3 % Donc, les gens, les honnêtes travailleurs à qui il avait dit « Vous allez payer moins d'impôts, moins de taxes! »
La perte de contrôle aussi, je pense, dans les derniers jours. Là, t'sais, la dernière entrevue qu'il a accordé, bon, il a carrément quitté finalement en disant. C'est un discours qui maintient quand même depuis un certain temps de dire que, bon, les médias sont corrompus. Mm-hmm. Mais là, habituellement, il a toujours été capable de faire face à cette parade-là puis à maintenir quand même son discours. Mais là, clairement, on a vu un homme qui se désorganisait complètement puis de quitter comme ça l'entrevue alors qu'on lui pose des questions. Ouais. Sur le fait qu'on avait promis aux États-Unis une économie qui allait être forte, qui allait être solide, qui allait les sortir du trouble, qui allait... Ouf. Et c'est pas du tout ça qui se passe actuellement.
Sébastien qui nous écrit, en plus, il a dit que c'était des applaudissements. Ouais, il n'y a pas les mêmes applaudissements que moi, monsieur Trump.
Mais ça aussi, tu sais, le mensonge, tu sais, jusqu'où on... Tu sais, à un moment donné, c'est... Faut que ça cesse, ça.
Exactement.
Le fameux principe de « Ouais, mais c'est Donald Trump. Mm-hmm. Ouais, mais c'est des mensonges. Mais non, c'est des mensonges.
C'est le président américain. Il est à la tête de la plus grande démocratie au monde. Il est à la tête de la plus grande armée. Quoique là, ils ne sont pas capables de battre l'Iran, on se le demande. Là, qu'est-ce qui se passe avec l'armée américaine? Mais bref, c'est ça, t'as tellement raison, faut que ça change. Ce soir également dans le sport, c'est le quatrième match Golden Knights Hurricanes. C'est à 20h, c'est sur TVA Sport. Donc, à surveiller qui sera devant le filet pour les Hurricanes. Est-ce que ce sera le vétéran Frédéric Anderson ou Brandon Boozy, la jeune recrue? Et on va jaser aux alentours de 13h20 avec Stéphane Cadorette parce que jeudi, c'est le lancement de la Coupe du monde de soccer. Ça se déroule au Canada, aux États-Unis, au Mexique. C'est la première fois que ça se fait dans trois pays différents. On va beaucoup parler des coûts de l'événement. C'est une des raisons pourquoi ça se fait dans trois pays différents. Le prix des billets. Puis c'est la dernière Coupe du monde pour Lionel Messi et Ronaldo.
T'es-tu déjà allé au MetLife Stadium?
Oui.
Bon, est-ce que tu as déjà pris le train de banlieue pour te rendre au MetLife Stadium?
Non, j'ai jamais pris le train de banlieue.
Parce que bon, t'es du côté du New Jersey, puis je lisais ça hier dans un article justement du côté de Radio-Canada, tu sais, pour l'avoir déjà fait, moi, prendre le train de banlieue pour aller voir un match des Giants, si je me souviens bien. Au moment où on se parle, c'est 12,90 pour le ticket aller-retour.
Okay? OK.
Pour te rendre au MetLife Stadium. Il y a un frais, évidemment, pour le stationnement. C'est une quarantaine de dollars. Moi, la dernière fois que je suis allé, c'est 40 dollars US environ pour avoir accès au stationnement. Puis, c'est des stationnements qui sont pensés comme ça dans les stades aux États-Unis aussi. Puis ça, c'est important de le savoir parce que les différents événements sportifs, principalement le football, les tailgates, attirent énormément de gens. Des gens qui n'auront pas nécessairement mainmis sur des billets, mais vont vouloir quand même assister aux avant-matchs, aux tailgates, ou même rester pour écouter le match de l'extérieur. Fait qu'il y a plus de parking que de place dans le stade.
Ils sont à l'extérieur, ils regardent ça sur leur écran de télé qu'ils ont amené. Ça se passe dans les régions aussi, surtout au sud. Là. Moi, je vais voyait ça à Tampa Bay.
Ben oui.
Tout le long de la rue du stade, les gens ont leur jeu de poche, tout le kit. Là, ça joue aux poches, ça joue au dehors. Ils ont le match, ils ont leur barbecue, ils ont leur beers. La vie est belle.
Ah oui, la vie est belle. Écoute, une des dernières fois que je suis allé, moi, on est allé voir Taylor Swift avec, avec ma blonde, avec ta cousine. Puis il y a des gens qui étaient à l'extérieur du MetLife. Il n'y a même pas d'écran géant juste pour tendre l'oreille puis entendre puis, le show.
Puis être dans la foule, être dans le port, être dans
c'est
le monde.
Ça. Fait que ça, c'est quand même coutume. Okay? Ouais. Et évidemment, le train fait en sorte que le stade se remplit puis se vide en un claquement de doigts. C'est vraiment bien fait. Là, pour la Coupe du monde, le billet aller-retour, qui est à 12,90 au moment où on se parle, est passé à 150 US.
Pour le train?
Pour le train. Aller-retour. De 12,90 US à 150 pour le train. Okay. Les gens ont crié que ça n'avait pas de bon sens.
Ben oui.
Fait que finalement, on a pris la décision de descendre ça à 98
Mais c'est quand même 11,50 à 98 ça fait aucun sens. Écoute, les billets pour la ronde préliminaire au Canada, le billet le plus cher, ça correspond au billet le plus cher qui était pour la finale 2022.
Je sais pas qui peut s'offrir ça.
Moi non plus.
Je comprends pas comment on dit que les stades vont être pleins, qu'il va y avoir des retombées économiques extraordinaires.
Ben, il reste encore 74 000 billets à vendre pour les 10 ou 12 matchs qu'au Canada. 18, je pense.
C'est normal.
On va parler de ça avec Stéphane Cadaret, mais c'est normal. Là, tu les prix. Hey, 1 300 pour assister à un match préliminaire entre deux pays que tu connais même pas. C'est juste fou.
On en jase.
On vous avait annoncé une entrevue avec Luc Berthold, député du Parti conservateur. On l'a reporté aux alentours de 13h40. Bon, faut comprendre, Nate, M. Berthold a plusieurs entrevues aujourd'hui.
Ben, c'est sûr.
Il y a l'émotion qui remonte.
Ben, aussi.
Donc là, il avait besoin d'une petite pause.
C'est fait correct. Que,
ça va nous faire plaisir de lui accorder cette pause-là. Parlant de pause, coudonc, Nate... je vais te poser la question, puis tu vas nous faire la nouvelle. Est-ce qu'on va être en pause de bruit dans le vieux Québec? Tu sais, moi, je le prends des deux côtés. Est-ce qu'on veut un vieux Québec qui va être plus organisé, plus ordonné? Ou c'est encore les vieux chioleux qui vivent là, toi, qui ont le dessus?
Bien, la meilleure chose à faire, parce que je pense qu'il n'y aura pas de pause de bruit cet été, ou du moins, le bruit va peut-être être remplacé aussi. Mais quoi que dans le vieux Québec, non, c'est pas vrai. Ça va plus à l'automne. Je veux pas dire de sottise non plus. Mais tu sais, éventuellement, le bruit des gens qui se promènent des terrasses, des chin-chin, des verres de cocktail sera remplacé sans aucun doute par le son des pépines, puis des pelles mécaniques, puis des quand va venir évidemment
quand
les travaux
du tramway.
Il
y en a déjà beaucoup de travaux également. L'autre jour, on a parlé avec Yannick Parent, là, qui est copropriétaire d'une tonne de restaurants. Là. Son café Buade, là.
Ouais.
La rue, c'est plus une rue.
Non, ben écoute, c'est...
c'est un immense trou.
Tu sais, moi, honnêtement, je être propriétaire de restaurant en ce moment dans ce coin-là, je pense que je m'achèterais une coupe de mountain bike électrique, là, des vélos de montagne là, ou des fat bikes, puis je dirais aux gens, tu sais, vivez une double expérience. Là.
Ben, à vélo.
Les faire de la trail.
À vélo pis, pourrait devenir mountain bike vélo.
Il y aurait peut-être de quoi réfléchir. Il y aurait,
réfléchir,
là, y aurait peut-être des trails de fun.
Une coupe de jump.
Hey, c'est ben,
la piste de BMX comme on avait dans le temps. Là,
ben
moi,
oui.
J'avais ça au Parc Victoria.
Ah oui.
On se pétait juste bas à fiole.
Ben, garde un petit jump, puis après ça, c'est ça, viens prendre un petit cocktail ou un petit café.
Dans le temps que nos parents nous laissaient partir à 6 ans, que nos vélos, toi, on faisait 14 coins de rue, on allait au parc, puis ils s'inquiétaient pas. Ils disaient, t'en reviendras pour dîner. Bon, on fait pour dîner.
Je sais pas toi, mais c'était à peu près un bicycle par été, là.
Ah, ben oui.
T'sais, ça ressemblait à ça. À un moment donné, moi, je revenais, le bicycle était dérinché, la roue d'en avant était pétée, parce que c'est ça, on avait essayé de faire un jump quelque part, puis dans le. Mais tu sais, c'est
ça. Puis là, tu vivais le père Bougon pour 24 heures, puis après ça, t'avais passé à travers.
Ben oui, c'est ça. Mais en même temps, le père était content parce que lui, ça lui permettait de refaire une petite visite chez Canadian Tire.
C'est ça.
Pour aller travailler un nouveau bicycle, puis faire le tour des allées.
Les pères au Canadian Tire, on finissait plus. C'était le calvaire. Fallait absolument vivre le calvaire d'être au Canadian Tire pendant une heure et demie avec ton père pour avoir ton nouveau vélo.
Ouais, mais au moins, c'est ça. T'avais ton nouveau bike. Ça, là, t'impressionnais toute la galerie parce que le tien, il y avait des chocs puis il était jaune fluo.
Ça,
puis il était
super souriant.
Ouais,
mais là, le maire Marchand a annoncé des capteurs de son.
Ouais.
Parle-nous de ça. C'était dans le Journal de Québec ce matin.
Journal de Québec qui annonce que la ville va installer 7 sonomètres dans le Vieux-Québec pour mesurer justement précisément le niveau de bruit dans le secteur. Un investissement quand même de 70 000 $. Fait que c'est 10 000 par sonomètre.
Ben, c'est ça, c'est quand même beaucoup.
Mais de ce que je comprends, c'est que ça vise, bon, évidemment, l'achat ou la location, là, je ne sais pas exactement, de l'outil et toute la gestion de cet outil-là pendant la période estivale. Mais le but de ça, c'est de le savoir, finalement, une bonne fois pour toutes. c'est quoi la quantité de bruit qu'il y a dans le Vieux-Québec, puis répondre un peu à la question que tu posais tantôt.
Oui, c'est ça, c'est vieux chialeux, parce que moi, j'ai tendance à leur dire, puis là, je suis sûrement trop catégorique, mais corrigez-moi au 418-971-101, j'ai tendance à dire, bah, gang de chialeux, chiale que trop de bruit, on va installer des affaires à 70 000 $ quand on est endetté par-dessus la tête pour se faire dire que trop de bruit, puis après ça, la police du fun va rentrer dans le Vieux-Québec.
Puis, tu sais... Parle-moi pas là-dessus. C'est ça que j'ai envie de te dire. La police du fun devrait travailler pour l'autre équipe, tu sais.
Ben, c'est
si
ça!
Si t'habites en Haute-Ville pis t'es pas tolérant au bruit, c'est...
Il y a d'autres endroits qui existent, là.
Regarde, je vais comparer des pommes avec des oranges, mais ben let's go, on s'en va là. C'est exactement comme quand tu t'en vas dans un restaurant familial, parce que ça aussi, ça a fait des manchettes pas plus tard qu'hier.
C'est tellement un bon
point.
Puis
tu dis à une petite famille, « Hey, vous avez fait du bruit, vous nous avez dérangé. Qu'est-ce que tu fais là? »
C'est ça.
Qu'est-ce que tu fais là?
Ça
si t'aimes camp. Pas les enfants, travaille pas dans un CPE.
Ben non,
tu sais,
c'est
à un moment
ça.
Donné, c'est, on le sait que pendant la période estivale, puis on a des commerçants qui sont là, qui se battent depuis des années pour justement expliquer aux gens autour de nous autres notre chiffre d'affaires annuel, là, principalement, va
exactement.
Se faire pendant une période de 3, 4, peut-être 5 mois si on a un bel été, puis que ça s'étire un peu. C'est normal qu'il y ait des terrasses. C'est normal qu'il y ait des caisses de son sur les terrasses pour créer de l'ambiance. C'est normal qu'il y ait des amuseurs de rue aussi. Voulez-vous une ville vivante ou vous voulez quelque chose de plate?
Ben, c'est ça, parce que j'ai l'impression qu'on veut prendre justement ces amuseurs publics-là après avoir capté le bruit, puis là, dire « OK, voici vos enclos.
Ben, »
Mais un amuseur public, là, corrige-moi si je me trompe, là, tu vas pas dire « OK, je vais aller à l'enclos 2 voir l'amuseur public. » Non, l'amuseur public, il est là.
Faut qu'il soit devant toi
tu
quand
passes.
Tu passes. Ben oui.
Puis là, il est là. Je vais te donner l'exemple. La dernière fois, je suis allé à Montréal avec, avec ma blonde. Trois violonistes, oui. Ils jouaient des tunes de... voyons, j'ai juste Jack Lebeau, des Pirates des Caraïbes dans la tête, puis tout ça. On s'est arrêté là. On a regardé ça pendant 15 minutes. On tripait bien raide. T'sais, j'avais pratiquement le goût d'aller me chercher une beers au dépanneur en arrière, puis dire, je bois ça dans la rue en regardant un gars jouer du violon. C'est un spectacle incroyable. Mais si tu m'les avais placés dans l'enclos 3 en me disant « Va voir, ces trois violonistes-là sont malades. » Ben non, moi, je m'en vais avoir un show foufoune électrique. Je passerai pas par l'enclos 3.
Ben non, c'est ça. Mais tu sais, moi, tu vois, je pense que c'est un peu ça que le pari que la Ville va faire. De dépenser de l'argent cette année pour après ça sortir avec des statistiques puis dire peut-être aux gens dans le secteur qui se plaignent, regardez, c'est pas si pire
que
ça.
Va être ça.
Les motos modifiées, les véhicules modifiés, ça, ce genre de choses-là, je comprends que ça peut être agaçant.
Oui, mais ça, mettons plus de surveillance policière.
Ça peut être plus de surveillance policière, puis en même temps, c'est passager. T'sais, c'est bien rare que tu aies un gars avec une moto modifiée qui va faire des donuts au milieu de ta rue puis qui va être là pendant un avant-midi au complet. Ça dérange le temps que le véhicule passe. Mais regarde, tu vois la conseillère municipale, justement, Marianne White, qui dit que ces capteurs-là vont permettre d'identifier les zones les plus touchées par le bruit causé notamment par la circulation, les motos modifiées, les haut-parleurs, des commerces, les amuseurs publics. Les données recueillies jusqu'à la fin du mois de septembre pourraient éventuellement servir à renforcer le règlement municipal sur le bruit. La Ville qui souhaite toutefois trouver un équilibre entre l'animation estivale du Vieux Québec et la qualité de vie de ses résidents. Fait que la dernière phrase de cet article-là me laisse croire que la Ville va être en mesure de dire oui, il y a du bruit, mais en même temps, hey, vous êtes dans le Vieux-Québec, là. C'est sûr que si tu t'achètes un condo en face des plaines d'Abraham, puis la deuxième semaine du mois de juillet, tu chiales parce qu'il y a du bruit sur les plaines.
Là, c'est le fait, là.
Là, tu le savais, là. Puis, tu sais, il y en a plein des belles maisons aussi dans Charlebourg, dans Beauport, dans Saint-Augustin-de-Desmaures, avec des beaux grands terrains privés. Puis, à la limite, le seul bruit qui va te gosser, c'est peut-être ton voisin qui passe à la tondeuse le dimanche matin.
C'est ça.
Ça va t'arriver une fois par semaine, mais c'est sûr que si t'es pas tolérant au bruit, puis que tu décides d'habiter en ville.
Ben oui.
Tu peux pas te plaindre constamment, là. En tout cas, ou c'est moi qui comprends pas quelque chose, mais moi, ça me rentre pas dans la tête.
Exactement. Autre sujet que je voulais te parler concernant notre ville, c'est Saint-Roch. Parce qu'il y a un commerçant, Étienne Jacques, que le commerce Triste Vintage. C'est un commerce où on vend plein d'articles vintage. C'est en mode, là, maintenant. Là, les gens retripent à porter une camisole des Expos de Montréal puis un gilet des Whalers d'Hartford.
Ouais,
exactement.
Ça.
Donc, c'est à la mode. Lui, il est sorti pour dire, hey, écoutez, ça n'a pas de sens. Les travaux du tramway, ça éloigne les gens. Il y a déjà de l'itinérance, il y a déjà beaucoup de problèmes de santé mentale. Je ne sais pas comment je vais faire pour passer au travers. Bon, Étienne Jacques aurait peut-être dû faire un petit peu plus de démarches parce qu'il n'était pas au courant qu'il y avait un programme d'aide. Il y en a un, ça existe. S'il y a des commerçants qui nous écoutent, vous ne le savez pas, contactez la Ville de Québec. C'est jusqu'à 30 000 $ que vous pouvez aller chercher. Mais quand même, tu sais, je veux faire abstraction un peu dans mon commentaire des travaux du tramway parce que, bon... Tramway, c'est un projet. Il est là. Il existe. ça fait mal, ça va faire mal. Je suis très, 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 très empathique envers les commerçants, notamment Carl-Emmanuel Picard, ouais, qui est venu nous parler en ondes dans le Point de Max, puis ça m'attriste énormément ce qu'ils vivent. Mais moi, c'est beaucoup plus qu'est-ce qu'on fait avec Saint-Roch? C'est quoi notre plan à long terme? Je ne l'ai pas, je trouve, du maire marchand. Puis, il faut que le gouvernement bouge rapidement avec le projet de loi 38 qui P38, va permettre, ouais, le P38, ouais, ouais, qui va, ouais, permettre justement de faire des interventions du côté des policiers, puis d'amener les personnes qui sont dans la rue, qui ont de graves problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, à aller se faire soigner. Il y a plusieurs qui nous disent « Ouais, mais Jeff, quand tu fais une thérapie forcée, ça marche jamais. » Bah, ça marche peut-être dans 25-30% des cas. Ben, ça sera au moins ça de gagner par rapport à ce qu'ils soient dans la rue puis que leurs conditions dégradent de mois en mois.
C'est que là, on n'a pas le choix d'essayer des affaires, Jeff, aussi. Là.
Oui.
Il faut qu'on essaye. Puis peut-être qu'il y aura de l'essai-erreur, malheureusement. Puis j'aime pas ça le dire de cette façon-là non plus.
Mais non, non, mais en effet.
On n'a quand même pas le choix d'essayer des affaires pour sauver ce
quartier. Le statu quo est inacceptable.
Tu sais, on parlait un peu plus tôt dans l'émission, là, si vous avez manqué ça, là, tu sais, on manque d'établissements scolaires dans la grande région de Québec. On parle des centres de services qui disent qu'il manque au moins 20 écoles. Mm-hmm. 20 écoles, c'est énorme. L'Aubrivière, qui est une bâtisse qui a été reconstruite il y a quelques années, ça fait, ouais, pas excessivement longtemps.
Non, non, non.
C'est flambant neuf encore, là. On manque déjà d'espace.
Ça déborde.
Ça déborde aussi de tout bord du côté.
Puis ça, tu sais, je lancerai jamais de pierre à l'Aubrivière parce qu'il pensait pas qu'il y aurait une augmentation à Québec d'à peu près 40% d'itinérance.
Mais personne l'a vu venir,
c'est ça.
Personne l'a vu venir. Puis en même temps, on pouvait pas savoir non plus qu'il allait avoir une pandémie. Puis on pouvait pas savoir non plus qu'il allait avoir une augmentation du coût de la vie qui allait être faramineuse, tu sais, qui allait être énorme, mm-hmm, et aussi rapidement. Ça nous a pété dans la face.
Oui.
Mais à partir de là, comme ville, c'est sûr qu'il faut prendre une décision puis il faut se positionner. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que ça prend un plan à long terme pour Saint-Roch, puis ça prend des actions concrètes à court terme aussi.
Mm-hmm.
Puis de démanteler ce qui se passait du côté du parc Jean-Paul Lallier parce qu'on l'avait demandé, parce qu'il y avait des gens qui levaient la main. Je dis pas que c'est mauvais. Je me positionne pas par rapport à ça. Je dis pas que c'est mauvais ou pas. Mais en même temps, je peux pas être en désaccord non plus. Monsieur Lachance l'a vraiment dit de la mauvaise façon, là. Mais je peux pas être en désaccord avec le fait qu'il a raison. Ces gens-là, si tu démantèles leur campement, ils ne disparaissent pas.
Ben non.
Tu sais, moi, je l'ai vécu, cette montée-là. Quand j'étais jeune, là, Saint-Roch, c'était comme ça. Comme,
oui,
ça l'est en ce moment.
Ben oui.
On l'a vécu
avec
aussi.
Avec le maille Saint-Roch.
Avec le maille Saint-Roch,
avec
c'était ça.
Sur le maille, c'est une piquerie.
Quand on a défait le maille, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là ont migré vers le moi, ce que j'appelle le bas de Limoilou, là.
Vraiment.
Fait que là, moi, j'ai grandi, c'est à 4e, c'est à 5e rue.
Fait que là, t'as vu ça.
Là, ça a changé. Oui. Moi, j'étais brigadier en 6e année, puis j'étais sur la 8e avenue, pas loin de ce secteur-là. Puis, comme brigadier, on faisait le tour des quatre coins de rue de l'école, puis j'allais chercher la TES pour y dire, il y a des seringues là, là, puis là. Mm-hmm. Puis là, elle a sorti avec des gants, puis avec un petit sac. Puis avec... hey. Ces gens-là ne disparaissent pas.
Moi, j'ai
migrent,
connu,
ils
imagine,
se déplacent.
Moi, j'ai connu Saint-Roch en étant gestionnaire du parc Saint-Roch, où on ouvrait, on avait un été, on a ouvert le parc la journée suivant le spectacle de la Saint-Jean-Baptiste dans le parc Saint-Roch. C'est 108 seringues qu'on a ramassées.
T'imagines
avant ça? D'ouvrir le parc pour les jeunes.
Pour des, un enfant joue au soccer, tombe.
C'est ça. On
pas...
est de retour carrément
c'est
là.
Ça.
Puis c'est pour ça que je parle de plan à long terme, parce que moi, ce qui m'énerve, puis là, tu as parlé du parc Jean-Paul Lallier, là, justement.
Ouais.
Là. Moi, ce qui m'énerve, c'est « Ah, on va vous arriver avec de quoi que le parc parce qu'il y a les travaux du tramway. » Mais moi, tant qu'à moi, si le tramway est en marche, normalement, je vais avoir le plan de savoir il va arriver quoi avec ce parc-là.
Ouais.
Un coup que le tramway va être fait, il va arriver quoi avec Saint-Joseph? Il va arriver quoi avec la Couronne, avec Dorchester? Qu'est-ce qu'on prévoit? C'est quoi nos ambitions? Qui a tel terrain? Parce qu'on parle de densifier, monter des condos. T'sais. C'est ce plan-là, moi, je trouve, qui manque pour un peu rassurer les gens.
Ben, il faut le faire. Puis, t'sais, à la limite, même de le jouer de façon... Garde, je peux pas vous le dire tout de suite, mais nous, le plan, on l'a.
C'est ça.
Mais il y a des raisons qui font en sorte que je ne peux pas vous annoncer tout de suite. Je vous l'explique, je te donne un exemple, parce que tout n'est pas concret avec certaines,
ouais,
personnes qui habitent le secteur encore, par respect pour ces gens-là.
En effet.
Il reste des papiers à signer, mais nous, le plan, on le sait. On est en train de fignoler, mm-hmm, deux, trois affaires. Déjà, au moins, j'ai une partie de la réponse.
Ouais.
Je suis comme, OK, t'es en train de me dire que tu sais où tu t'en vas, c'est juste que tu peux pas tout annoncer aujourd'hui. OK, c'est correct. Mais,
mm-hmm,
tu sais où tu t'en vas? Oui, parfait. Puis à partir de là, l'itinérance, on en fait quoi avec ça? Parce que là, c'est un problème qui est criant. C'est un problème qui est là, qui est présent. Et ces gens-là ne disparaîtront pas du jour au lendemain.
Ben non.
Puis l'autre affaire que moi, je sens, le coup de sonde que j'ai, c'est que les intervenants dans le milieu sont au bout du rouleau.
Vraiment.
Puis c'est pas juste... Là, on parle pas juste de moyens financiers, là, ici. Là. On parle de moyens en général. on est en train de créer une situation où est-ce que va falloir créer un filet pour notre filet social.
Ah oui.
Va falloir avoir quelque chose pour supporter ces gens-là qui sont au bout du rouleau, qui s'en vont en burn-out, qui s'en vont en dépression, qui s'en vont. Parce qu'il faut comprendre que les gens qui aident les gens qui font face à l'itinérance, dans 99,9% des cas, Jeff, je pense que tu vas être d'accord avec moi, ces gens-là, c'est des passionnés.
Ben oui.
Quand ce qu'ils tentent de mettre en place ne fonctionne pas, étant donné que c'est des passionnés, ça les atteint énormément, et ce, personnellement. Et au niveau psychologique, ça devient de plus en plus dur d'aider ces gens-là parce qu'il y en a de plus en plus. Puis là, tu peux pas être là pour tout le monde. Puis on l'a vu avec les demandes du côté de la Bouchée généreuse dans les dernières années. On manquait d'espace. Les entrepôts étaient plus assez grands non plus. Là, on a un besoin criant. Puis je sais même pas par quel bout de prendre ça, mais c'est sûr qu'il faut se doter d'un plan de match puis venir au moins s'assurer qu'on est en mesure de mettre deux mains dans le dos, là.
Ouais.
Auprès des intervenants, là, pour pas qu'eux flanchent, là, parce que si ces gens-là tombent et pelaillent demain matin, là, ça sera vraiment plus beau. Là.
Ben vraiment, parce que ça leur prend des résultats concrets, parce qu'imagine, tu travailles sur une problématique pendant des années, mais ta problématique fait juste augmenter. C'est sûr qu'à un moment donné, le découragement embarque. Et en plus, les gens qui travaillent pour les organismes communautaires, pour en avoir côtoyé plusieurs dans ma carrière, ben, c'est des gens qui ont un grand cœur. C'est des gens qui n'ont pas les bonnes conditions de travail. Mm. C'est des gens qui sont missionnaires. Mais ouais. Quand ta mission, tu ne la vis plus, tu la sens plus, bien là, à ce moment-là, tu deviens complètement sans moyens.
Puis tu sais, à un moment donné, c'est de prendre une décision personnelle aussi, de mettre ta propre santé en jeu.
Oui.
Pour la santé de d'autres individus.
C'est ça.
Puis, tu sais, ces gens-là ont une vie comme toi puis moi, puis mm-hmm. comme les auditeurs puis les auditrices. Ils ont des blondes, ils ont des chums, ils ont peut-être des enfants, ils ont des... Tu sais, à un moment donné, c'est cette partie-là, je pense, qui me fait peur, c'est de voir ça des fois du coin de l'œil. Le système, le filet social, le réseau de la santé, tu sais, avec ce qu'on a comme filet, justement, c'est ça, ouais. Je reviens à ça, là, mais est-ce qu'on soutient suffisamment ces gens-là? Parce que sans eux, là, la chaîne va débarquer, puis pas rien qu'à peu près, là. Puis c'est ça, c'est au-delà des moyens financiers. Ces gens-là ne demandent pas nécessairement d'avoir une augmentation de salaire de 25 000 $ par année. Ils demandent des moyens. Ils demandent des solutions. Si j'ai plus de place à l'Aubrivière, j'ai-tu un plan B pour envoyer ces gens-là dormir quelque part quand il fait moins 40 au mois de février, temps ressenti? C'est ça qu'il faut leur donner aussi. Fait que c'est sûr que pendant ce temps-là, quand il y a des coups de pelle qui se donnent pour un projet de tramway dont on a besoin, à mon propre avis, mais qui ne semble pas complètement défini, c'est normal que... On lève la main, puis là, c'est tout clair. L'effet domino, puis on en revient à ce commerçant-là dans Saint-Roch qui dit « Moi, je me suis installé ici parce que je crois à la ville, je crois à la vie de quartier. »
Ben oui, tout ça, mais là, Saint-Roch.
Tout ça est en train de s'effondrer. Fait que là, je fais quoi avec mon commerce? Là,
exactement.
C'est ça.
Non, ça va prendre une vision long terme, puis ça va prendre des actions concrètes. Le P38 en est vraiment un qui pourrait venir, justement, aider ces fameux travailleurs d'organismes communautaires qui sont pris jour après jour avec des cas, malheureusement, qui sont devenus trop lourds pour eux. Parlant de problèmes, on a des problèmes de viaduc, on a des problèmes d'infrastructure. Bon, au Québec, on construit pas assez d'écoles puis on les agrandit pas,
ouais.
Dans le bon temps. Mm-hmm. C'est sur Radio-Canada. Et dans le Journal de Québec, ce matin, on apprend que le viaduc qui enjambe l'autoroute de la Bravoure, le pont de la rue Jean-Marchand, bien écoute, l'ingénieur peut passer sa main à travers le viaduc. Ça fait pas de sens. C'est dangereux.
C'est pas rassurant, ben.
C'est
ben,
pas du tout rassurant.
C'est pas rassurant, ben.
Cet ingénieur-là, c'est Marc-André Martin. Il est président de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec et il est avec nous immédiatement après cette courte pause à Boulevard 102.1.
Jusqu'à 14h, on en jase.
Émission d'Angeoise de ton mardi 9 juin, les 13h11, 418-971-1021 pour nous joindre en studio, également blvd.fm. Vous pouvez nous écouter via la web radio. Nos meilleurs moments s'y retrouvent. Et n'oubliez pas de télécharger notre application BLVD 1021 gratuitement sur App Store et Google Play Store. Vous allez pouvoir nous écouter partout où vous allez sur nos routes du Québec. Est-ce que ces routes-là sont sécuritaires? C'est la question qu'on va se poser avec Marc-André Martin, président de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec. Mais avant ça, Nathan, moi, je suis toujours choyé de faire de la radio pour nos auditeurs et auditrices, puis j'ai l'impression de toujours vivre des grands moments. Et là, moi et toi, on vient d'en vivre un il y a à peu près 3 minutes parce qu'on a serré la main de Marc-André Martin.
Oui.
Cette même main qui passe à travers le viaduc du pont marchand, du pont.
On a serré la main de l'homme qui a vu la craque.
Exactement. Et ce viaduc-là, il passe sa main à plusieurs endroits, c'est-à-dire dans la structure qui retient le tablier. Il passe sa main à travers le tablier. Et c'est une petite chose de rien, Nathan, mais sous ce viaduc-là, par jour, c'est 7800 véhicules qui passent, donc 4% de camions lourds.
On est en
Il
n'y
a
bas de
8000. Rien là, c'est pas beaucoup. Yeah. La structure présentement est dans le vide à 60%. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ça va bien. Et tout ça, quand on se souvient qu'on a eu, on a eu l'effondrement du viaduc de la Concorde en 2006. Mm. Donc, Monsieur Martin, est-ce qu'on est rendu à la même étape qu'on était en 2006 au niveau de nos infrastructures déficientes?
Bon après-midi, messieurs.
Bon après-midi.
Écoutez, effectivement, là, on voit, avec les décisions qui ont été prises par le gouvernement de la CAQ dans les 2-3 dernières années, on a tendance à... J'aurais tendance à vous dire qu'effectivement, on a un retour au début des années 2000. À l'époque, la réingénierie de l'État, puis du déficit zéro, c'est-à-dire qu'on coupe dans l'entretien des infrastructures, drastiquement. On a coupé le nombre d'ingénieurs qui sont là pour s'en occuper. Et là, aujourd'hui, on voit que ça se détériore à vitesse grand V. Et c'est pas normal, comme vous l'avez mentionné, que je sois capable de rentrer ma main à l'intérieur du mur de front du pont, ni en dessous du bloc d'assises ou au travers du tablier. On s'entend là que quand on inspecte un pont, on a une règle pour regarder des fissures de millimètres, en millimètres, pas en nombre de doigts.
Là, c'est une bonne épaisseur.
C'est ce qu'on peut lire, justement, dans ce que vous avez mentionné ce matin. C'est ce que ça veut dire par rapport au bloc d'assise, justement, qui est complètement cassé. C'est que au lieu de reposer sur une assise solide, le bloc de ce coin-là est appuyé sur environ 40 % de sa surface, donc à 60 % dans le vide.
En plein ça. Et on se situe sur un appui, sur l'appui mobile. C'est-à-dire, un pont, c'est ça, des dilatations thermiques, il y a des rotations, il y a des translations. Et c'est directement au niveau de ces appuis-là que ça, tout se fait, se passe, fait qu'il y a des mouvements. Donc, nécessairement, si on n'est pas appuyé à 100 %, vous comprendrez qu'on a un problème, là.
Le pont demande des travaux urgents. Est-ce qu'il est sécuritaire à l'heure actuelle pour les automobilistes qui passent sous ce pont-là? C'est le pont de la rue Jean Marchand.
Très bonne question parce que, écoutez, c'est sécuritaire. Pourquoi? On a des ingénieurs qui l'ont pris à temps puis qui vont faire un banc support temporaire pour faire des travaux. Ils sont présentement en train de faire des travaux d'urgence. Dès ce matin, ils ont commencé. Donc, on va sécuriser la poutre avec un... Puis là, je parle juste possiblement, là, parce que c'est pas moi qui va faire la conception. Mais honnêtement, on va mettre un banc support pour retenir la poutre au cas où elle débarquerait de l'assise, en attendant de faire des travaux. Donc, on va faire des travaux en urgence. Puis on s'entend, on est sur Henri IV, là. C'est pas normal pour une structure avec autant de passages qu'on soit rendu à faire des travaux en urgence. Normalement, on est capable de planifier. Quand on fait une bonne planification, une bonne priorisation, tout ça est évité. Alors aujourd'hui, on va prendre des travaux en urgence qui vont nous coûter les yeux de la tête. On va prendre ce budget-là sur des travaux. On va, disons-le, on va compenser sur des travaux d'entretien qui n'auront pas lieu parce que veut pas se dévasser communicant. Mm-hmm. Au Québec, on se fait rabrouer tous les fois la capacité de payer. On n'a pas d'argent. Il faut prioriser. Bien là, l'argent s'en va sur des urgences.
Et sauf que là, ces urgences-là, c'est ça, excuse-moi,
c'est ça,
de te couper,
mais on perd, dans le fond, on perd ces urgences-là.
On perd de l'argent.
Cet argent-là, on le perd sur de l'entretien préventif, fait qu'on est toujours en train de payer de l'urgence.
Allez, on a une quantité limitée de ressources à l'interne, je l'ai dit, on a coupé des ingénieurs, donc à un moment donné, on a une quantité de travaux qu'on peut réaliser à un certain point, et là, on a des problèmes. Fait que là, on va prendre nos ressources, on va les mettre sur les urgences plutôt que faire de l'entretien préventif.
Je vous mets ça entre les mains, là, demain matin, là. Au niveau du gouvernement, là, OK? On prend des décisions, puis on rebrasse ça, là, on rebrasse les cartes. C'est quoi le top 3 des affaires à faire de façon urgente? T'sais, vous avez dit qu'on a coupé dans le nombre d'ingénieurs. Est-ce que c'est de réengager des ingénieurs? Est-ce que c'est de réouvrir ces postes-là? Est-ce que c'est de repenser complètement l'agenda des prochains mois? C'est quoi, mettons, comme on dit en bon français, là, le top of mind, les 3 affaires urgentes qu'on doit mettre dans la cour des ingénieurs du côté du gouvernement du Québec pour essayer d'amoindrir le retard qu'on est en train de prendre?
Écoutez, je vais faire ça quand même assez simple. On entend parler la première ministre, Mme Fréchette, qui dit on va faire un plan au niveau des infrastructures, etc. Là, il faut arrêter que les grands penseurs continuent à penser dans leur grande tour avec d'innombrables équipes qui sont là pour réfléchir à faire des tableaux, des projets, des plans, etc. C'est pas ça que ça prend. Ça prend retourner le centre décisionnel aux ingénieurs, parce que c'est ça notre job. On sait comment, quoi prioriser, quand le prioriser, puis quoi faire au bon moment. C'est ça notre job, dépolitiser. Donc, première étape, on remet l'ingénieur au centre décisionnel de l'entretien des infrastructures. On lui donne deux après ça. On lui donne des moyens. On donne des moyens de faire les travaux d'entretien. Et trois, bien, on règle sa convention collective pour qu'il arrête d'être en moyen de pression à tous les printemps, comme depuis 2022.
Justement, faites-moi...
C'est un top 3, c'est simple quand même.
Ben oui. Ben moi, je suis pour ça, là, que ce soit les gens sur le terrain qui soient au centre des décisions, puis ça pour n'importe quoi. Là. Ça devrait être le médecin dans l'hôpital, ça devrait être l'infirmière qui gère la patente. Là. Ça devrait pas être celui au perché dans un CIUS, là. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais justement, la question qu'il faut que je vous pose, le faites-vous, ces sorties-là, parce que vous êtes en négociation?
Ben, notamment. Écoutez, mm-hmm. là, il y a des choses qui sont d'intérêt public, là, comme ce que vous avez vu ce matin. Il y a d'autres choses, c'est qu'on aurait pu comme laisser passer ça sous le radar, mais vous comprendrez que quand on est en négociation, on se permet d'aller un peu plus vers les médias, puis on attend. Habituellement, on attend que les médias viennent à nous, on commande. Mais là, on va un petit peu plus vers les médias parce que dans les dernières années, c'est, comment je pourrais dire ça, exceptionnel de voir le sous-financement, ce qu'il a créé. Et ça nous a retardé, là, je dis, là, les deux, trois dernières années de sous-financement par la CAQ au niveau des infrastructures routières nous a retardé de 10 ans. On est revenu 10 ans en arrière au niveau de l'entretien. Vous le voyez, là, le pont dont on parlait ce matin, il avait été inspecté il y a 3 ans. Il y a 3 ans, il n'était pas dans cet état-là. Et c'est même pas un pont qui avait une lumière rouge d'allumer au-dessus pour dire, hey, il faut le vérifier, puis il faut le garder à l'œil.
Fait que ça veut dire ceux qui étaient au jaune puis au rouge, là, 3 ans, sont rendus dans quel état?
Bien là, c'est ça le problème. On n'a plus assez de gens pour tout aller les voir, puis tous les gens sont occupés sur les feux. Donc, ce qu'on sort plus, oui, puis c'est pas parce qu'on sort plus, c'est parce qu'il y a plus d'événements. Il y a plus d'événements, vous l'avez vu, là. Ils ont fermé la route 117 il y a 3 semaines au complet. C'est un lien unique pour aller en Abitibi. Ils ont détourné le trafic sur l'autoroute 50, le trafic lourd. Sur l'autoroute 50, on a une demande de services essentiels. On a un ponceau qui menaçait de s'effondrer. Il a fallu qu'ils fassent des travaux d'urgence sur l'autoroute 50 aussi. On était en train d'enclavier complètement l'Abitibi. Pas plus tard qu'avant, il y a 2 jours, l'autoroute 30 à Sorel, sans préavis, on ferme l'autoroute. Pourquoi? Il y a des éléments de pluviales qui ont fait en sorte qu'il y a une caverne qui s'est creusée en dessous de l'autoroute. T'es obligé de fermer l'autoroute sans préavis. Donc, fermer à 117 sans préavis, fermer à 50 sans préavis, fermer la 30 sans préavis. Là, on est sur Henri IV. Regardez, nos infrastructures, ils caquent de partout. Toutes caquent de partout.
Caquent de partout.
Ouais, c'est leur thématique, exactement. Pour rappel, on est avec Marc-André Martin, président de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec. On est à quoi d'une tragédie au Québec, d'une nouvelle tragédie, dans pourcentage?
Écoutez, là, vous le voyez, là, ce qui est, à mon sens, le plus grave, c'est que c'est les infrastructures qui sont enterrées qu'on n'inspecte pas. On en a énormément d'ouvrages qui ne sont pas inspectés puis que le gouvernement n'est même pas au courant qu'on l'a dans notre inventaire. C'est pas inspecté, c'est pas inventorié, c'est sur le bord de la route, comme sur l'autoroute 30. Donc, on est à combien de temps d'une tragédie? Écoutez, là, il y aurait pu en avoir une, là, 3 jours. L'autoroute 30, c'est une caverne en dessous de l'autoroute. On est à un véhicule lourd de traverser ça puis descendre, puis qu'après ça, tout le monde enfile en arrière. Moi, j'ai pas une boule de cristal, mais si on continue comme ça, là, c'est une question de temps.
Puis, il me semble que, et puis là, je veux vraiment pas être alarmiste, mais c'est sûr que le commentaire va l'être avec des nouvelles constructions, tu sais, comme, je vais prendre ici proche de nous, là, tu sais, le nouveau pont de l'île d'Orléans. On parle de troisième lien depuis que je suis au monde.
Bon, depuis belle lurette.
On parle de troisième lien. Puis si on n'est pas capable de s'occuper de nos infrastructures déjà existantes à ce point-là, ça vous laisse présager quoi pour ce qu'on est en train de bâtir puis de construire? Ça veut dire que ça aussi, dans 15-20 ans, on va être mal pris avec ça. Là. C'est bien beau bâtir du neuf, mais si on n'est pas capable de s'occuper de l'ancien, on s'en va vers où avec ça?
Ça va prendre un gouvernement qui a de la vision, puis là, présentement, on ne l'a pas. Ça va prendre des gens qui sachent. Quand on construit une infrastructure, là, ça vient avec un budget d'entretien puis d'exploitation. Là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est on répare un ouvrage, puis on fait comme s'il va rester de même, puis il va rester beau, ad vitam aeternam.
Puis là, on prend ce budget-là, puis on le met dans des nouvelles annonces.
Puis après ça, ben c'est ça. Puis après ça, on transfère, puis on y donne aucun budget d'entretien, alors qu'on sait que d'ici 10-15 ans, c'est sûr qu'il y a des choses à faire. Il y a un minimum si on veut ralentir la dégradation. Donc, c'est ça la problématique. Là. C'est, on pense que l'espèce de pensée magique, que le pont là, qu'on parlait ce matin, là, au-dessus d'Henri IV, oui. Là, il a été réparé dans les années 2010, là, 2008, là. Mais là, ce qui lâche, là, c'est une patch. C'est la patch qui est en train de lâcher. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller patcher à patch. Vous voyez bien, là, on est rendu là.
On est rendu là.
Ouais, on va patcher à patch.
Aïe, aïe, aïe. Marc-André Martin, président de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec. Merci beaucoup d'avoir passé à l'émission d'Enjase. Toujours un plaisir de vous parler. Puis si jamais vous passez votre main à travers un autre viaduc, ben on va être intéressé à le savoir, surtout dans la grande région de Québec. Merci. Je ne peux pas croire que j'ai serré cette main-là.
C'est incroyable.
Courte pause à Boulevard 102 à l'émission d'En Jase. Stéphane Cadorette s'installe avec nous. Et oui, Coupe du monde de soccer, le mondial, qui s'installe notamment au Canada à compter de jeudi, avec des prix au-dessus de ce qu'on pouvait payer pour un match du Canadien de Montréal en série. Aïe, aïe, aïe.
Jusqu'à 2-1.
Il est présentement 13h27. Nate, tout à l'heure, on s'est posé la question. Les auditeurs nous disaient, mais voyons, pourquoi le PQ ramasse l'argent du fédéral pour le tramway, mais il veut pas pour le TGV? Joël Arsenault du Parti québécois était en entrevue dans le Point de Max. Voici sa réponse.
La différence, je dirais, c'est entre un projet qui existe strictement sur papier et puis un projet qui est déjà enclenché. Non, mais il y a quand même des travaux qui se font depuis un an ou deux. Puis à un moment donné, je pense que la conclusion de la ville des deux paliers de gouvernement, ça a été on va de l'avant. Nous, on pense que c'est un des grands projets d'infrastructure en matière de transport en commun qui va se réaliser. Mais à un moment donné, avant d'en mettre un autre sur les rails, c'est le cas de le dire, regardons ailleurs où sont nos besoins prioritaires.
418-971-1021. Je veux pas être plate avec M. Arsenault, Nate, mais à un moment donné, le TGV va devenir en marche. T'sais, il est comme le tramway, là, il est dans les phases préparatoires. Ouais. Fait que pourquoi le PQ n'est pas sorti pendant les phases préparatoires du tramway pour dire on n'en veut pas de l'argent sale du fédéral, mais ils le font pour le TGV?
Non, c'est la stratégie derrière ça, ouais, c'est ça. Je l'ai, on a parlé un peu plus tôt là, de ça, là, du fait que je ne l'ai vraiment pas vu venir non plus. Non. Pis, je comprends qu'il y a une stratégie politique derrière ça, mais je comprends pas le timing. Je
moi
comprends
non plus.
Pas. On est à quelques jours là, de la fin des travaux parlementaires. En plus de ça, c'est quoi l'objectif?
Moi non plus, je comprends l'objectif.
C'est comme juste de dropper une bombe là.
Ouais,
après
à part
ça...
de continuer de dire nous, on est pour la souveraineté. Le Canada, ça n'a pas lieu d'être. Là. Continue à nous texter.
Un n'empêche pas l'autre. Là. T'sais, dans le sens où est-ce que, mettons qu'on devient souverain demain matin, il va falloir continuer pareil à transiger avec nos homologues canadiens.
On
n'aura pas le choix. Là, si on veut que l'économie perdure, on n'aura pas le choix. Fait que le TGV nuirait pas. Je vois pas comment ça peut... Je comprends qu'au niveau de la création de l'infrastructure, oui, ça peut nuire à des gens de chez nous. C'est sûr et certain qu'on n'aura pas le choix de brasser de la terre.
Mais ça parle aux commerçants de Saint-Roch que le tramway nuit présentement.
Ben, c'est ça. C'est sûr que pour construire, on n'a pas le choix de brasser des choses, de déplacer des affaires. Ça, je le comprends. Là. Puis je pense que la stratégie politique est là, justement. Mais à partir de ça, pourquoi sortir maintenant? Ça, ce bout-là, je le comprends pas.
Moi non plus, je le comprends pas du tout. On a Stéphane Cadorette au bout du fil avant, en manchette, Nate.
Oui, écoute, ça, tu vas peut-être tomber de ta chaise aussi. Une étude financée par Glencore qui soutient que l'alimentation serait davantage responsable de l'exposition à l'arsenic à Rouyn-Noranda plus que les émissions de la fonderie Horn. On parle que, selon les chercheurs, le riz, les fruits de mer et le poisson expliqueraient une grande partie des concentrations observées chez les participants.
Okay, ces conclusions dans le cas des complotistes, Glencore, qu'est-ce qui se passe là?
Ces conclusions qui contredisent toutefois celles de la santé publique qui avait déjà observé des niveaux d'arsenic beaucoup plus élevés chez les résidents vivant près de la fonderie, le dossier qui continue évidemment d'alimenter le débat sur les impacts environnementaux de l'usine. Fait que, tu sais, les gens de Rouyn-Noranda... C'est pas la fonderie.
Mais non, c'est ce que vous mangez.
Slaquer sur le riz un peu, là.
Ben, c'est ça.
C'est ça qu'on comprend. Sinon, les tensions... écoute, je
peux pas croire qu'ils sortent avec sérieux avec une affaire comme ça.
Mais j'en viens pas d'avoir à te livrer ça en ondes.
Non, c'est ça. Je le fais parce que... Je veux pas trop faire attendre Steph, mais c'est ça.
C'est mon travail,
dans
là,
le
mais...
pas croyable, c'est la ça. Sortie de Glencore.
Sachez que le dernier 30 secondes, nous autres aussi, il est en gros guillemets, là. En ce moment, on sait pas trop ce qui se passe. Les tensions qui montent de nouveau entre les États-Unis et l'Iran. Le président Donald Trump qui affirme que les forces iraniennes ont abattu un hélicoptère Apache américain dans le détroit d'Hormuz et promet une riposte. Il précise toutefois que les pilotes s'en sont sortis indemnes. Malgré cet incident, Trump se montre optimiste et soutient que les négociations entre Washington et Téhéran sont dans leur phase finale. Il estime qu'un accord pourrait être conclu d'ici quelques jours pour mettre fin au conflit dans le Golfe. Et dernière manchette, ben, c'est cet ancien médecin de famille de Québec, Eugène Aubé, qui fait maintenant face à trois nouvelles accusations d'agression sexuelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il avait fait la manchette aussi au mois de janvier dernier. Ce serait des
les actes qui auraient été commis dans les années 2000 lors d'examens médicaux. L'homme de 77 ans avait déjà été reconnu coupable au début de l'année d'avoir agressé sexuellement deux patientes dans le cadre de pratiques médicales. Et on dit que M. Eugène Aubé doit comparaître jeudi pour répondre à ces nouvelles accusations. L'ancien médecin qui ne pratique plus depuis 2009 a déjà été sanctionné, évidemment, par son ordre professionnel.
Les amateurs de football, c'est-à-dire de soccer, en auront plein la vue à compter de jeudi alors que se lance la Coupe du monde 2026. Ça se déroule au Canada, aux États-Unis, au Mexique. Et pour en parler avec nous, il va être sur le beat de la Coupe du monde, Stéphane Cadorette du Journal de Québec. Stéphane, comment vas-tu?
Salut, messieurs. J'espère que vous n'avez pas trop mangé de riz.
Non. On est correct. Toi, est-ce que tu manges du riz ou à l'endroit où tu te situes, Stéphane? Non, hein?
Ça va pas plus c'est que ça. Toute personne normalement constituée.
Excellent. Moi, je pensais me faire des crevettes à soir, messieurs, pour souper sur le barbecue, mais je pense que je vais rebondir mon plan. Là.
Mais si jamais tu veux revoir l'endroit où tu veux habiter, Stéphane, Rouyn-Noranda, à côté de l'usine Glencore, c'est vraiment safe.
C'est bon, j'en prends là. En tout cas, on sait jamais. Des fois, la vie nous réserve des surprises.
Exactement. Hey, Stéphane, je lis tes papiers depuis le début de la semaine concernant la Coupe du monde, puis moi, ce qui m'a sidéré, c'est le coût des billets. Il se passe quoi avec nos grands événements sportifs? On veut juste que ce soit les riches de la société qui puissent y assister. Moi, avec mes enfants, j'ai plus le droit d'aller voir un match de sport.
Ouais, c'est plate pas mal. Tu sais, c'est un phénomène. Là, on parle de la Coupe du monde, oui, mais tu as dit match sportif, puis je suis d'accord avec toi. Tu sais, c'est global. C'est pas mal dans tous les sports. Tu sais, j'en parlais à des amis là, qui sont dans le magasinage de forfait football, entre autres, là, pour l'automne. Tu sais, c'est déjà parti. L'horaire est lancé depuis la mi-mai. Les prix, ça augmente. Puis là, pour la Coupe du monde, écoute, on parle là, de matchs qui sont pas tout le temps. Tu sais, oui, il y a le Canada. Il va jouer 3 matchs là, dans la phase de groupe, les équipes canadiennes. 2 à Vancouver, 1 à Toronto. Mais il y a des matchs là, là-dedans. T'sais, bon, là, on dit, il y a des matchs un peu plus raisonnables. Là. T'sais, je sais pas, moi, Égypte contre, je me souviens plus c'est quel le pays. On parle de 300. Nouvelle-Zélande, Égypte, Nouvelle-Zélande, là, on parle d'environ 350. Puis là, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, raisonnable. Ouais. Je m'excuse, mais on parle d'un match là, où je pense que les amateurs canadiens n'ont pas nécessairement beaucoup d'attache. On va s'entendre.
En effet.
Ça, c'est ce que tu as de moins cher qui est disponible. Là, t'sais, je regardais encore juste avant de rentrer en onde pour le premier match du Canada en phase de groupe contre la Bosnie-Herzégovine. Là, on parle là, de jeudi à Toronto. Ça va se chiffrer autour de 1 000 $. Puis, t'sais, le seul espoir qu'il y a en ce moment, il y a beaucoup d'espèces d'analystes là, qui surveillent ça un peu à gauche, à droite, puis qui se disent, ben étant donné qu'il y a encore plusieurs centaines de billets qui demeurent disponibles, peut-être qu'on va assister à une baisse assez importante dans les derniers jours, dans les prochaines heures, autrement dit. Donc, ça reste à surveiller, mais il reste qu'à la base, c'est cher, pas à peu près.
Est-ce que tu trouves ça triste?
Ah, absolument.
Parce que
le sport, depuis tous les temps, a toujours été associé au peuple. Puis, tu sais, par le peuple, là, on dit pas ça de façon péjorative, là. C'est vous, c'est moi, c'est nos familles, c'est tout le monde qui nous entoure, c'est nos voisins, c'est notre beau-frère, c'est nos cousins. Puis, on a l'impression que maintenant, il faut faire partie d'une certaine tranche de la société pour pouvoir se permettre des matchs comme ça. Puis, c'est franchement déplorable parce que c'est contre-intuitif pour moi d'associer le sport à une certaine frange privilégiée. Parce que ça n'a jamais été le cas. T'sais, écoute, je regardais même la NBA. Je sais qu'on déroge, mais on reviendra à la Coupe du Monde. Je ne veux pas m'éloigner trop.
Non, mais...
Le match des Knicks hier à New York, c'était la folie furieuse. Là. Ça pouvait coûter 5 000 $ pour un billet ben normal.
C'est ça. Il n'y a pas un papa normal, travailleur à New York qui peut amener ses enfants vivre ce trip-là.
Puis là, j'entends déjà le monde, là, ils vont entendre ton commentaire, puis ce que je viens de vous dire, puis ils vont dire, ouais, mais ça, là, arrêtez de capoter avec ça, c'est l'offre et la demande, puis c'est le libre marché, puis c'est ça le capitalisme. Je peux comprendre, là, mais jusqu'à quel point, à un moment donné, on puise dans la poche des gens. Tu sais, ça coûte très, très cher organiser ces événements-là. Déjà, là, on parle d'environ, là, on parle un peu plus d'1 000 000 000 de dépenses pour organiser. C'est 7 matchs-là qui vont avoir lieu au Canada. C'est 6 à Toronto, 7 à Vancouver. Donc, 13 matchs. Tu sais, c'est des coûts astronomiques en sécurité. Là, dans les deux villes, on parle d'au-dessus de 350 millions chaque. Là. Je pense que c'est 380 à Toronto, 345 à Vancouver, quelque chose comme ça. Tu sais, jusqu'à quel point on accepte de payer des événements comme ça. Puis on aime tous ça, le sport. Moi, je suis un maniaque de sport. Tu sais, je gagne ma vie avec la couverture du sport. Je ne peux pas m'en plaindre, mais en même temps, je me dis, il y a un moment donné où les gens vont atteindre leurs limites, je ne peux pas croire.
Bien, tu sais, on va. Puis, tu vois, je lisais hier justement, Stéphane, que juste du côté de Vancouver, là, au niveau des autorités, là, il va y avoir plus de dépenses que pour les Jeux Olympiques. Du côté de qui a eu lieu à Vancouver pour s'assurer justement de la sécurité, tu sais, les Jeux olympiques. Mais on est dans cette même tranche-là, j'ai l'impression, on est dans cette même strate-là de l'espèce d'élite, justement, qui peut se le permettre. Puis je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Stéphane, mais c'est pour ça que je trouve que la Ville de Québec, plus ça va, plus ça avance dans le monde du sport, plus cette tarification dynamique-là, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, je trouve qu'on est privilégié d'avoir les capitales de Québec qui sont abordables, d'avoir les remparts de Québec qui sont abordables, d'avoir un magnifique tournoi de volleyball dans notre ville comme on a eu droit la fin de semaine dernière, qui fait en sorte que moi, comme jeune père de famille, je suis capable de dire à mes enfants dans le même mois, on va aller voir trois sports différents parce que j'ai les moyens de vous amener voir les remparts et les capitales à des prix qui sont raisonnables au lieu de t'amener voir un match de soccer une fois dans ta vie puis que ça m'a coûté une main puis un rein pour réussir à t'amener. Je trouve qu'on est finalement bien positionné, la Ville de Québec, en termes de ce qu'on offre comme qualité de sport puis le rapport qualité-prix qu'on a.
Est-ce que tu dis fait totalement du sens? Après ça, c'est un choix de société là, que tu fais. Est-ce que tu es une ville de sport ou est-ce que tu es une ville de hockey ou une ville de soccer ou une ville de football ou de baseball, par exemple? Tu sais, je regarde, par exemple, à Montréal, les équipes sportives, oui, ont du succès, mais c'est le Canadien qui prend toute la place.
Clairement.
Puis on l'a vu en série à quel point les billets, c'était devenu de la folie, ça aussi. Tu regardes Québec, ben c'est là que tu peux te permettre une diversité de sports. Après ça, ben il y en a qui vont quand même dire, puis ils ont tout à fait le droit. Là-dedans, nous autres, on préférerait quand même avoir les Nordiques, puis notre dollar loisir, on l'investirait, même si ça coûte plus cher au match, on l'investirait pour aller aux Nordiques. C'est un choix qui se défend complètement, mais je pense qu'en ce moment, la Ville de Québec comprend la réalité dans laquelle elle est, puis dans laquelle le sport nord-américain est rendu. Puis c'est comme si on se dit, on devrait peut-être se positionner comme ville de grands événements sportifs plutôt que d'avoir des locataires récurrents, là, mais qui sont très, très, très dispendieux dans des ligues professionnelles de haut niveau. C'est un choix de société, je pense. Ça appartient à chacun. Mais je pense que ce que tu dis, je défends très bien.
Stéphane Cadorette, en terminant en 30 secondes, on s'attend à quoi du Canada dans son pool contre la Bosnie, le Qatar et la Suisse?
Bien, je pense que c'est l'occasion ou jamais. Là. Le Canada a jamais eu, dans son histoire, l'occasion de franchir la phase de groupe. T'sais, jamais même gagné un match de Coupe du monde là, en deux participations en 86 et en 2022. Là, tu regardes le groupe, c'est très prenable, sans manquer de respect aux autres adversaires. Je pense que la majorité des analystes voient le Canada deuxième dans sa phase de groupe derrière la Suisse. C'est tout à fait réaliste de penser comme ça. Maintenant, la seule ombre au tableau, c'est qu'il y a des blessés. Là. Alfonso Davies, est-ce qu'il va jouer sur une table? Est-ce que le défenseur québécois Moïse Bombito va être à 100% de ses capacités? Il y a des cas là, qui posent problème comme ça. À quel point le Canada va être en santé, ça reste à voir. Mais je pense que si on a une équipe là, qui sort de l'infirmerie et qui peut être à peu près à 90-100% de ses capacités, ben écoute, c'est l'occasion ou jamais d'arriver à une première historique, de dire « OK, on atteint la ronde des 32, on dépasse la phase de groupe ». Ce serait quand même génial là, pour l'essor du soccer au Canada.
Stéphane Cadorette, merci beaucoup, puis on se fait signe durant cette Coupe du monde.
Yes, merci à vous de l'invitation. Salut,
salut, merci Stéphane Cadorette du Journal de Québec. Courte pause et normalement, on va parler avec Luc Berthold, le député du Parti conservateur.
On avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
13h45 minutes. On tire à sa fin pour l'émission On en jase. C'est le retour de Gravel qui suit avec Denis, Audrey et Véro. Nicolas qui nous écrit au 418-971-1021. J'étais sur la liste pour des billets aux Jeux olympiques de 2028. J'ai changé d'idée quand j'ai vu les prix. 28 500 $ US pour 3 personnes, voir la cérémonie de fermeture. 9 000 $ pour l'athlétisme, n'incluant même pas le 100 mètres. Ouais, quand on dit qu'on ne peut plus amener nos familles dans le sport, c'est un très bel exemple. Je suis très content que notre prochaine invité ait accepté de nous parler parce que je trouve que c'est une histoire très touchante, mais en même temps une histoire qui pourrait avoir une très belle répercussion. Et j'aime beaucoup qu'on prenne ce que les gens ont vécu et qu'on rende ceci positivement. Je pense notamment à la loi Gabi Renault ici au Québec par rapport aux femmes victimes de violences conjugales. Puis vous le savez, moi personnellement, j'ai créé un fonds philanthropique au nom de mon amie Catherine qui est décédée beaucoup trop tôt du cancer. Mm. On va s'entretenir avec Luc Berthold qui est député du Parti conservateur du Canada pour la circonscription de Mégantic, l'Érable-Lobinière. Monsieur Berthold, comment allez-vous?
Ça va bien, vous?
Ça va très bien. Monsieur Berthold, merci beaucoup de prendre quelques minutes pour nous parler de votre histoire personnelle qui va se transformer de façon positive, j'en suis convaincu. J'ai lu, comme plusieurs personnes, l'article sur Radio-Canada ce matin. Et ce que je comprends, c'est que malheureusement, à l'âge de 28 ans, votre fils a décidé de s'enlever la vie.
Oui, effectivement, le 10 février 2025, David a choisi... à notre surprise de s'enlever la vie. Quoi, c'était pas la première fois, c'était la deuxième fois en peu de temps. La première fois, on avait pu intervenir, mais la deuxième fois, malheureusement, on n'a pas été là, on n'a pas été capable. Puis tout ça était l'aboutissement de plusieurs années de consommation. Mm-hmm. Donc, dans le fond, David a été bien, il a été moins bien, il a été très bien, il a été moins bien. Il a été très, très, très bien. Il a eu deux enfants avec sa conjointe, deux charmant petit bonhomme, qui aujourd'hui, malheureusement, sont des orphelins. Donc, c'est un drame. Et moi et mon épouse, on a choisi d'en parler publiquement parce qu'on veut faire quelque chose, justement, comme le dit bien Caro, pour donner un sens à quelque chose qu'il n'y en a absolument pas.
Premièrement, bravo pour votre courage. Franchement, je le salue. Je vous envoie plein d'ondes positives également. Ce que je comprenais, c'est que David a eu ses bons moments, mais a eu ses moments aussi où il est tombé très bas dans la toxicomanie.
Oui, effectivement. Puis il est tombé très bas, mais en même temps, il a toujours été, ou presque, là, assez fonctionnel. Il y a eu une période là, qui a été vraiment plus difficile, mais... pendant sa jeunesse, il était quand même très bon à l'école, il avait des bons résultats. Il a commencé avec une brosse, on dira plusieurs commencent comme ça, mais il était jeune un peu, 13 ans. On a agi pour cet événement-là, mais pour le reste, ça a été plus difficile parce que bon, il ne nous a pas avisé qu'il avait commencé à fumer du cannabis, par exemple. Puis à un moment donné, on reçoit un appel d'école qui veut fouiller sa case. Puis à un moment donné, l'école fait venir un chien, ils veulent fouiller son auto. Mais David s'en était toujours sorti quand même bien. Jusqu'à un moment donné, il est arrivé un événement dans sa vie qui l'a secoué comme faux. C'est là qu'il a vraiment tombé. Tombé jusqu'au point où un jour, il s'est fait arrêter pour trafic de drogue. Alors, c'est du crack. Fait que c'était pas n'importe quoi. C'est ça qu'il consommait aussi. Et cette arrestation-là, lui, a... je pense que il a frappé son mur. Hein. C'est ce qui fait en sorte que il s'est mis à aller bien, rencontrer sa conjointe avec qui il a eu deux beaux petits-enfants. Puis un jour, sans qu'on s'en doute, probablement lors d'une rencontre fortuite, il a recommencé juste à essayer une fois. Là. Puis la fois a mené une autre fois, jusqu'à ce qu'on reçoive un appel pour nous dire qu'il avait tout passé sa paye puis qu'il avait plus d'argent pour mettre de la nourriture dans le frigo pour la fin de semaine. Pour les enfants, c'était abominable. C'était sa limite, là, lui. Et c'est là que tout a dégringolé très, très vite jusqu'à l'événement tragique du 10 février.
Vous étiez une famille présente, votre conjointe et toi, votre conjointe et vous, pour votre fils. Parce que, tu sais, des fois, il y a une réalité qui peut faire en sorte que, bon, ça dépend du milieu dans lequel les enfants sont élevés. Ça peut être des fréquentations à l'école aussi, Mais je trouve que votre histoire représente ce qui peut malheureusement arriver à n'importe qui, même si on est dans un bon milieu, d'où, je pense, votre demande auprès du fédéral d'établir ces mesures-là pour venir en aide aux plus jeunes citoyens. À quel moment, vous, M. Berthold, vous étiez peut-être face à votre conjointe puis vous vous êtes dit, là, on n'a plus de ressources, là, on ne sait plus comment faire pour aider notre fils?
C'est arrivé souvent. C'est arrivé à plusieurs fois. C'est arrivé quand il était au secondaire. C'est arrivé quand il a eu sa dérape, là, sa période de dérape, comme j'appelle, là, celle qui a amené à son arrestation. On lui a fait voir des psychologues. On a tenté de faire des choses. Mais David, aller jusqu'à son arrestation depuis l'âge de 13 ans, ça en était toujours sorti quand même pas si pire. Il y a toujours une solution. Il ne s'est jamais fait arrêter. Donc, il n'avait pas eu ce mur-là dans sa jeunesse. Et quand on lui demandait s'il voulait suivre un traitement ou quelque chose, la réponse était toujours non. Même à la fin, après son arrestation, il n'a pas voulu aller faire une cure fermée nulle part. Il faut dire qu'on ne l'a peut-être pas aidé. On l'a amené dans un centre de traitement juste en face de la prison de Trois-Rivières. Il a passé une nuit avec un criminel endurci qui faisait peut-être sa 10e visite au centre de traitement. Donc, c'était peut-être pas la meilleure place. Mmh. On est allé le rechercher. Mais après ça, quand même, de passer une nuit-là, ça a été le deuxième coup. Là, il a voulu vraiment se reprendre en main. Il voulait pas finir comme ça. Puis, c'est ça. Puis, à un moment donné, même on parlait quand ça allait bien avec lui, qui avait commencé à avoir ses enfants. On a eu un échange, lui et moi, à un moment donné, puis on s'est dit pourquoi, David, on ne ferait pas des conférences ensemble pour dire comment tu t'en es sorti, pour te montrer aux autres comment que c'est possible de le faire. Mm-hmm. Mais malheureusement, vous voyez, c'est fragile. Hein? Même lui n'a pas été capable de réussir totalement. On s'est jamais rendu là. Donc, moi et mon épouse, on a dit on va prendre le relais, puis on va faire ce qu'on avait dit qu'on allait faire avec David.
Ah, c'est tellement beau, M. Berthold. Pour rappel, on parle avec Luc Berthold, député du Parti conservateur pour la circonscription de Mégantic, l'Érable-Binière. M. Berthold, concrètement, le projet de loi que vous allez proposer, c'est le projet de loi 231, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qu'il changerait pour l'encadrement des jeunes qui ont des problèmes, comme David avait, de dépendance et de santé mentale?
Ce qu'on peut dire, si vous voulez, au lieu de l'appeler 231, on peut l'appeler le projet de loi pour les amis de David.
Ça, c'est tellement une bonne idée. Ouais.
Je pense que c'est comme ça qu'on doit le connaître aussi, parce qu'un chiffre, c'est impersonnel. Si on parle des amis de David, je veux vraiment qu'il reste quelque chose de lui de positif. Donc, je vais l'appeler comme ça, si vous voulez. Le projet de loi vise à permettre aux jeunes qui se font arrêter pour une possession de drogue ou pour un crime, un délit relié à la consommation problématique de substances, d'être référé par un juge, par un procureur ou par un policier à un centre de traitement plutôt que de se faire taper ses doigts avec une peine immédiatement. Mm-hmm. Ça permet au juge de reporter sa sentence après le traitement du jeune. Et si le jeune, effectivement, s'en tire bien dans son traitement, bien, il peut s'en sortir là sans peine et continuer sa vie normalement dans la société, guéri de cette dépendance-là. Et quand je dis guéri, il semble qu'on ne guérit pas vraiment d'une dépendance, mais au moins, si le jeune consommait parce qu'il y avait un autre problème, un trouble de santé mentale, par exemple, ou un trouble social, ou quelque chose d'autre qu'on ne peut pas voir nécessairement à la maison parce qu'on n'est pas outillé pour ça, ça permettrait d'avoir au moins ce diagnostic-là dans la vie d'un jeune, puis de l'avoir le plus tôt possible quand le jeune commence ce cercle infernal de consommation. Je pense que c'est là qu'on a le plus de chances d'aider. Je tiens à dire quelque chose, je veux pas que tous les parents se mettent à fouiller les sacs de tout le monde. Là. C'est pas tous les jeunes qui sont comme ça, puis c'est pas tous les jeunes qui ont fumé un joint qui vont terminer comme ça. Là. C'est pas le cas. Le problème, c'est qu'on sait juste pas si ça va finir de même. Mm-hmm. La majorité des jeunes s'en sortent bien, puis c'est une période d'adolescence. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on a pensé nous autres aussi au début, que c'était bon, l'adolescence, ça va passer, mais pour David, ça n'a pas passé. Il est arrivé, comme j'ai dit, quelque chose de tragique dans sa vie, puis ça a été la débandade pour une première fois. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui font ça pour des expériences d'adolescents, puis c'est correct. Mais il ne faut pas échapper ceux qui ont peut-être que la consommation de drogue cache un autre problème sérieux au niveau de la santé mentale ou autre. Là. C'est pour ça qu'on a mis ça en place, pour donner cette opportunité-là au juge. Le juge peut ordonner le traitement pour reporter sa peine. Si le jeune refuse, il a le droit, parce que je voulais pas m'embarquer dans un débat contre la Charte canadienne des droits et libertés puis contre la Constitution. Vous savez qu'on en aurait parlé pendant des années. Donc, il y a une possibilité pour le jeune de ne pas le suivre, mais ça sera une première décision à lui dans ce cas-là. Et il devra faire face et assumer la responsabilité de ses actes. Non.
Monsieur Berthold, on vous félicite pour votre force, on vous félicite pour le travail que vous faites, puis on va souhaiter ardemment que le projet de loi des Amis de David soit adopté à la Chambre des communes.
Ben écoutez, j'ai déjà l'appui de tous les partis politiques, même en comité, tout le monde appuie le projet de loi. Je pense qu'on a touché une corde sensible. Tout le monde connaît quelqu'un dans son entourage ou très, très près qui a passé à travers ces problèmes-là. Si on peut apporter une petite solution et sauver ne serait-ce qu'un seul jeune du sort qui a été réservé aux mains, ben je pense qu'on va avoir réussi quelque chose de grand.
Monsieur Berthold, bravo, félicitations, puis on vous souhaite bonne continuité.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir. C'était Luc Berthold, le député du Parti conservateur du Canada. Nate, compte tenu qu'on a déjà dépassé le temps, on fait quoi? Que justement, le retour de Gravel fait souvent. On met ça dans le parking, puis on se reparle de ça demain.
Parfait. Numéro 1, on fait ça.
Excellent, le retour de Gravel suit avec Denis Audrey. Véro! Gravel!